Je travaille au commissariat à l'énergie atomique, vous connaissez certainement, avec ses bons et ses mauvais côtés. Je serais heureux d'en parler avec vous si vous voulez. Et le commissariat à l'énergie atomique, c'est un centre de recherche. C'est le deuxième plus gros centre de recherche, institut de recherche en France. Hein, le plus gros, c'est, vous connaissez, qui fait de la recherche en France? Le CNRS, voilà. Donc le CNRS, pour fixer des ordres de grandeur, c'est 30 000 personnes. Et le CEA, c'est 15 000. Donc vous voyez, on est deux fois plus petit qu'eux, mais on est quand même un gros mastodonte sur toute la France. Et notre particularité, c'est de faire de la recherche appliquée. Vous allez voir que moi, je ne vais pas vous montrer des équations. D'abord parce que ce n'est pas très intéressant, mais parce que notre production, ce sont des objets, des prototypes qui sont destinés à aider les gens dans leur quotidien, à aider des industriels à être plus performants. On parlait de la performance, hein, qui est le fer de lance de la Nièvre. Et ben voilà, donc nous, on travaille dans ce sens-là avec pour offrir de l'innovation aux industriels. Et dernière chose, oui, que je voulais vous dire, ce que je fais, c'est en partie avec vos impôts. Et donc, c'est pour ça que je suis content d'avoir l'occasion de venir partout en France présenter ce qu'on fait, parce que je pense que nous vous le devons, nous les chercheurs et nous ces fameux fonctionnaires qui ont été un petit peu chambrés. Quoique les gens du CEA ne sont pas des fonctionnaires. On est de droit privé, mais c'est vrai qu'on travaille dans un gros institut public. Donc, on peut être vu de loin comme des fonctionnaires avec la sécurité de l'emploi et tout ce qui s'ensuit. Alors, comment le CEA est amené à faire et s'est retrouvé à faire de la réalité virtuelle? Alors, la réalité virtuelle, pour nous, comme on la voit au CEA, alors vous levez la main, vous criez quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, hein, parce que je suis pas toujours en phase avec mon public, surtout au début. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Donc voilà, alors comment le commissariat à l'énergie atomique est venu à faire cette fameuse réalité virtuelle qui peut-être dans l'esprit de certains d'entre vous est liée beaucoup aux jeux vidéo, peut-être aux films ou à la... Je ne sais pas à quoi c'est lié dans votre esprit d'ailleurs. Vous avez déjà une idée de ce que ça peut être la réalité virtuelle? Rien du tout? Tabula rasa? Bon, eh bien parfait. Donc comme ça, on va partir sur des bases saines, sans a priori. Alors... La première chose, c'est la robotique. En fait, au CEA, on fait de la robotique et plus exactement de la téléopération à retour d'effort. Je vais vous montrer un film tout de suite. C'est-à-dire comment aller intervenir dans des endroits où l'homme ne peut pas aller parce qu'il y a de l'atome, il y a de la radioactivité. Donc, on va envoyer des robots faire le travail à la place des hommes. Donc, ça, c'est le premier volet. Et le second volet qui a alimenté ce que vous allez découvrir, la réalité virtuelle, c'est la simulation. Alors, la simulation, est-ce que ça vous dit quelque chose qu'est la simulation? Mais je pensais en le disant aux joueurs de foot qui se jettent par terre pour faire semblant. Donc voilà. Très bien. Donc vous connaissez parfaitement la simulation. Donc la simulation, c'est faire semblant qu'une chose s'est produite alors qu'elle s'est pas produite. Et donc, au CEA, on fait ça de plus en plus parce que les essais nucléaires hein, que M. Boschko connaît bien, eh bien, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'en faire. Et donc, on les simule parce qu'on a quand même besoin des résultats de ces expérimentations pour être sûr que le jour où on aura besoin d'une bombe atomique, espérons que ça n'arrive jamais, eh bien, elle marche quand même. Et puis, on simule aussi des tas d'autres phénomènes physiques. Donc, au CEA, quand on construit une installation nucléaire, on va d'abord simuler son comportement pour être sûr que dans la vraie vie, quand on la construira, elle se comportera de façon correcte. Donc voilà, cette simulation, je vais vous remontrer des exemples aussi, tout ça sera illustré longuement. Alors voilà, donc ça c'est les robots que nous faisons au CEA. Donc ce sont des robots, imaginez que ce robot blanc là, il est dans une cellule là où il y a des matériaux nucléaires, donc l'homme ne peut pas y aller, et il y a néanmoins de la manipulation à faire, soit pour ranger les fameux déchets, soit pour faire de la maintenance, et ce robot il est piloté à distance par un opérateur. Donc l'opérateur lui est à l'abri, et tous les mouvements de la main de l'opérateur sont recopiés par le robot. Et la particularité de ça, donc on appelle ça un système maître-esclave. L'homme donne les ordres, c'est le maître, et l'esclave, c'est le robot, fait le boulot. Et donc, vous voyez, l'esclave est très fort, il peut soulever des charges très lourdes, et l'opérateur, donc le maître, lui, ne sent quasiment pas le poids. Et là, mais en revanche, là où l'analogie avec le maître et l'esclave s'arrête, c'est que nous avons un retour d'effort. C'est-à-dire tous les efforts que va faire le robot dans sa cellule, l'opérateur va les ressentir. Donc si le robot tape dans quelque chose, l'opérateur va ressentir que sa main est bloquée. Donc on a l'impression de toucher des objets qui sont distants. Et c'est ce toucher à distance qui permet de faire des opérations aussi fines que celle-là. Vous voyez, quand on fait de l'insertion, on va faire glisser un tiroir là. Si vous essayez de faire glisser un tiroir, vous avez tous fait l'expérience, hein. Si vous tirez un tiroir et que vous n'êtes pas bien dans l'axe, ça va rester bloqué. Alors soit vous êtes une brute, vous tirez toutes vos forces et là c'est tout le meuble qui vient avec vous, soit vous vous mettez bien dans l'axe et à ce moment-là, sans effort, ça va venir. Eh bien, la téléopération à retour d'effort permet de faire ça. Si vous tirez sur votre tiroir à distance et que le robot n'est pas bien dans l'axe, ça va rester bloqué, vous allez le sentir et donc vous allez chercher à être bien dans l'axe pour tirer sans effort. Alors ces systèmes-là ont été expérimentés dans la très populaire usine de retraitement de déchets de La Hague. Et donc vous voyez ici un système de téléopération qui va permettre d'aller faire la maintenance d'une installation dans les meilleures conditions. Donc là, c'était une première mondiale et le commissariat à l'énergie atomique a transféré ce système de robotisation à une société du groupe Areva pour faire cette intervention dans les meilleures conditions. Voilà, donc ça, première étape, on va, grâce à la robotique et grâce à ce que j'ai appelé la téléopération à retour d'effort, hein, donc à ce système maître-esclave, toucher, manipuler des objets qui sont loin et les toucher, avoir le sentiment de les toucher, alors que de fait, on ne les touche pas du tout. C'est le robot qui le fait pour nous. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la simulation dont je vous parlais. Donc la simulation... Voilà, cette fois, on va avoir un robot simulé. Donc là, j'ai plus un vrai robot... Mais c'est un robot virtuel, donc un robot qui est comme dans un jeu vidéo. Hein, donc c'est un robot qui est simplement sur dans la mémoire d'un ordinateur, un robot qui est donc entièrement numérique et qu'on va aller faire manipuler des objets dans un monde tout aussi virtuel. Et là, vous voyez qu'avec mon joystick ici, mon espèce de petit robot que j'ai dans la main, je fais bouger mon robot virtuel et quand le robot virtuel rentre en collision avec un objet du monde virtuel, eh bien, la main est bloquée. Alors, on va le refaire doucement, là. Vous voyez, là, il y a ma main qui bouge. En fait, c'est pas la mienne, mais c'est celle de mon camarade Lionel. Et vous voyez, quand le robot tape sur le sommet de cette cuve virtuelle, alors que tout ça est parfaitement numérique, hein, eh bien, la main va être bloquée. Vous voyez, là, la main ne peut pas descendre plus bas parce que le robot ne peut pas descendre plus bas. On a encore cette liaison entre un maître et un esclave, une complicité entre les deux, mais cette fois, l'esclave est virtuel. Donc, là, on commence... Vous me suivez jusque-là ? Hein, comment on arrive à avoir un objet qui est virtuel, mais qui a quand même une existence physique, puisqu'on peut quasiment le toucher. Voilà comment le CEA est arrivé là. Alors comment ça marche derrière tout ça ? Alors la première chose, c'est que quand on est dans le monde réel, que mon robot tape dans quelque chose, bon bah il y a un effort qui s'exerce entre le robot et l'environnement, on mesure cet effort, et ça on va le renvoyer dans la main de l'opérateur. Quand on est dans le monde virtuel... Les objets dans le monde virtuel, ils peuvent s'interpénétrer les uns comme dans les autres, puisque ce sont que des 1 et des 0, donc il n'y a rien qui dit que les objets ne peuvent pas, dans le monde virtuel, se passer l'un au travers de l'autre. Ce sont comme des fantômes, en fait, a priori. Donc la première chose que nous devons faire, c'est quand nous avons deux objets virtuels, donc par exemple un dinosaure virtuel, on fréquente souvent des dinosaures virtuels, on va vérifier que quand ces dinosaures bougent, dans le monde virtuel, ils n'entrent pas en collision l'un avec l'autre. Alors ça, c'est un travail qui est assez compliqué. Alors si je vous donne, par exemple, si je vous donne, vous connaissez ça, si je vous donne deux balles, voilà, je vous donne deux balles et je vous demande quand est-ce que les balles arriveront en collision l'une avec l'autre. Alors vous allez me dire quand elles vont se taper. Alors maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. D'un point de vue mathématique, les balles vont se taper quand la distance entre leurs deux centres, d'accord, la distance entre les deux centres des balles sera égale à la somme des rayons, on est d'accord, hein. Donc si le rayon fait 10 cm et là aussi, dès que les balles seront à moins de 20 cm l'une de l'autre, c'est que les deux balles seront écrasées l'une contre l'autre. Donc pour faire ça, si on a des balles virtuelles, on va calculer à chaque instant quand les balles se déplacent, si la distance entre les deux centres des balles n'est pas inférieure à la somme des rayons. Hein. En gros, vous me faites confiance, mais c'est le principe. La difficulté, c'est que les objets qu'on va manipuler dans le monde virtuel ne sont pas des balles, sont des objets beaucoup plus compliqués. Vous voyez, ces dinosaures, ils sont décrits dans la mémoire de l'ordinateur, comme un gros paquet de triangles. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir les petits triangles là. Chaque dinosaure est composé de à peu près 100 000 triangles posés les uns à côté des autres pour faire ces espèces de facettes, hein, qu'on voit sur certaines sculptures ou parfois qu'on voyait sur les très vieilles images de synthèse. Et donc, à chaque instant, il faut vérifier qu'il n'y a pas une des facettes, un des triangles qui compose le premier dinosaure qui va toucher un des triangles de l'autre dinosaure. Alors, s'il y a 100 000 triangles sur le premier dinosaure, 100 000 triangles sur le deuxième dinosaure, ça fait à chaque fois 100 000 fois 100 000 tests de distance qu'il faut faire. Vous me suivez ? Et 100 000 fois 100 000, ça fait... Charmy ? Oui, c'est à toi que je te le demande. Bon, ça fait, on s'approche du milliard, voilà. Donc ça fait... Je me venge parce que j'ai pas pu chanter ta chanson. Donc voilà, donc ça fait qu'à chaque instant, si on veut savoir si nos deux dinosaures se rentrent en contact, eh bien on a près d'un milliard de calculs de distance à faire. Et alors si vous faites ça, si vous le faites assez vite pour que quand vous tapez avec votre bras-mètre sur l'autre, eh bien il faut que à peu près 1000 fois par seconde, on fasse ce calcul entre ce milliard de calculs de distance. Donc je vous donne beaucoup de chiffres pour vous dire que c'est très compliqué surtout, et que derrière tout ça, il y a des algorithmes, des programmes informatiques qui vont être chargés de calculer à chaque instant s'il n'y a pas des collisions entre ces deux objets virtuels. Pour donner, première étape pour donner du corps à ces objets virtuels, il faut être capable de s'apercevoir quand ils vont se taper l'un dans l'autre pour empêcher qu'ils se traversent l'un l'autre. La deuxième étape, c'est renvoyer dans la main de l'opérateur le sentiment qu'il y a une collision. Et donc pour ça, on utilise des petits robots que vous voyez comme ça, qu'on tient dans la main. Et ce robot, comme vous voyez, ça ressemble un peu à ces lampes de bureau qu'on a. Vous voyez les grandes lampes de bureau avec des ressorts qui sont entièrement... vous voyez ce que je veux dire, avec un gros triangle au bout, qui ressemble un peu à la petite lampe qu'on voit au début des films de Pixar aussi. Donc c'est ce genre de mécanisme-là, mais un peu plus sophistiqué. Et donc on peut bouger la main, et donc les deux bras là vont se déplacer. Mais comme il y a des moteurs qui font bouger chacune des articulations, quand on veut refaire ressentir une collision dans le monde virtuel, eh bien les moteurs vont se freiner. Et donc alors que vous bougez tranquillement, brutalement, vous sentez votre main qui se bloque parce que les moteurs vont freiner, vont se mettre à tourner dans l'autre sens, et donc la main est bloquée et vous avez le sentiment que vous avez touché quelque chose. En fait, vous avez touché un objet virtuel dans le monde virtuel. Alors la particularité de ces jolis objets-là, c'est qu'ils sont issus d'une recherche au CEA et qu'ils ont été transférés à une entreprise française qui s'appelle Aption, qui est ce qu'on appelle une start-up, donc une société issue des équipes du CEA, et qui sont installés à Laval, donc, et même à Soulgy-sur-Ouette, donc la banlieue lointaine de Laval. Et donc, ils sont dans ce petit village, à la pointe mondiale de la fabrication de ce type de robot qu'on appelle des interfaces haptiques. Alors voilà, je vous envoie, comme on est dans un cours, je vais vous apprendre un mot peu utilisé dans le civil. Haptique, c'est un adjectif qui signifie relatif au sens du toucher. Alors peut-être vous connaissez l'aptonomie, non ? Donc l'aptonomie, c'est une sorte de médecine qui utilise le toucher. Alors les femmes enceintes, je crois, utilisent pas mal l'aptonomie pour avoir un meilleur contact avec leur... Pardon ? Oui, alors, mais là, on est plus proche du toucher avec... c'est pas de l'imposition des mains, c'est on touche vraiment, c'est de la palpation avec un contact. Donc haptique, ça veut dire relatif au sens du toucher. Et ces interfaces-là, on les appelle des interfaces haptiques parce qu'elles permettent de toucher. Ah, il y en a qui se fait toucher là-bas. Alors... Et puis la dernière étape de ce processus pour faire ressentir des collisions et pour faire ressentir le comportement physique des objets, c'est de simuler ce que font les objets quand ils rentrent en contact l'un avec l'autre. Par exemple, voyez cette télécommande. Si j'arrive en contact sur la table de cette façon-là, bien verticale, ma télécommande reste bloquée. Donc mon geste est bloqué. Et si je pilote ça de façon virtuelle, ma main va être bloquée par le fameux robot qu'on a vu avant, par l'interface haptique. En revanche, si j'arrive un peu de travers avec ma télécommande, quand je vais toucher et que je continue à appuyer, je vais glisser, vous voyez ? Et si l'objet est pliable, il va se plier quand je vais continuer à appuyer dessus. Donc il faut simuler tout ça, voir comment se comportent les objets quand on exerce des efforts dessus. Soit ils restent bloqués, soit ils plient, soit ils se cassent. C'est tout ça qu'il faut faire, qu'on a illustré avec ces deux gros boutons là. Quand ils vont les appuyer dessus, vous voyez, suivant l'endroit où on va appuyer, dans un certain cas, si on les appuie bien à plat, ils vont se bloquer l'un sur l'autre. Si on les appuie un peu de travers, ils vont glisser. Donc là encore, il y a plein d'équations mathématiques qui vont décrire comment les objets, quand on les rentre en contact et qu'on appuie dessus, ils vont soit riper, soit se bloquer, soit s'encastrer, soit se casser. Voilà, tout ça, il faut le simuler physiquement, il faut simuler la physique de ce contact-là, et en plus, très très vite, pour que tout ça puisse être envoyé assez vite dans la main de l'opérateur, donc dans la main de celui qui manipule son interface haptique. Alors, une petite expérience. Pour vous montrer que le CERN ne fait pas que travailler dans des installations nucléaires, les premiers développements qu'on a faits dans ce domaine-là, c'était pour des constructeurs automobiles. Alors le constructeur automobile, il a imaginé une nouvelle portière pour sa nouvelle voiture. Donc elle est très belle, elle est très bien dessinée. Dedans, il y aura une vitre électrique, parce que presque toutes les vitres sont électriques. Et donc pour lever la vitre électrique, il y aura un moteur électrique à l'intérieur. Donc il va dessiner sa portière, il va dessiner son moteur de la vitre dans la portière. Et puis après, il va dire, c'est bon, le moteur est bien logé, maintenant on peut envoyer ça à la fabrication. Donc il y a un monsieur qui fabrique la portière, il y a un monsieur qui fabrique le moteur. Et au moment où ça arrive sur les chaînes, l'ouvrier prend le moteur et il essaye de le faire rentrer dans la portière. Et malheureusement, le gars qui a dessiné la portière, il a prévu le moteur à l'intérieur, mais il n'avait pas prévu de trou assez grand pour faire passer le moteur et le faire rentrer à l'intérieur. Et vous savez sûrement, quand vous construisez des meubles IKEA, par exemple, vous vous dites, ah oui, ça, on peut le faire, mais moi, j'ai pas les mains assez longues, je sais pas comment ils ont fait, il faut un tournevis qui est tordu ou je sais pas quoi. Donc là, ce qu'on veut faire avec cette réalité virtuelle, on va se le remettre, c'est vérifier avant de construire les objets que le montage sera possible. Bon alors, aujourd'hui, enfin avant-hier, hier, quand ça se passait, on faisait pas, c'était pas l'ouvrier sur la chaîne qui découvrait ça. Il y avait les concepteurs faisaient une maquette en plastique de la portière, une maquette en plastique du moteur, et ils essayaient de faire le montage. Mais si le montage n'était pas bon, ben il fallait jeter la maquette en plastique à la poubelle, la maquette de la portière, la maquette du moteur, refaire un dessin et tout recommencer. Là, avec le virtuel, eh bien on n'a plus besoin de construire des maquettes en plastique. On fait directement l'essai de l'insertion. Et alors, comme vous avez bien compris, comme je calcule les collisions entre mon moteur virtuel et ma portière virtuelle, si, eh bien, il n'y a pas de trou assez gros pour que l'insertion puisse se faire, mon moteur va rester bloqué et ma main ici, va rester bloquée. Donc, je vais faire le geste que fera l'ouvrier sur la chaîne, mais simple, alors que les objets ne sont encore que virtuels. Hein, virtuel, ça veut dire numérique, ça veut dire que ce sont juste des dessins représentés en 3D, donc en 3 dimensions, dans la mémoire d'un ordinateur. Vous me suivez là? Tout le monde est avec moi? Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors justement, bonne réponse, bonne remarque. C'est pour qu'elle soit moins chère qu'on fasse ça. Parce qu'avant, il fallait faire une maquette en plastique et l'acheter si ça n'était pas bon. Donc ça faisait beaucoup de dépenses. Et alors il faut aller de plus en plus loin dans le réalisme, parce que la question que nous posent les constructeurs automobiles, c'est si on le fait dans le monde virtuel, est-ce qu'on saura le faire dans le monde réel? Donc vous voyez ici, ils nous ont montré les images d'une tâche sur une chaîne de montage. Et nous, eh bien on est là cette fois complètement dans la même carrosserie, mais entièrement virtuelle. Hein, qui est projeté sur un très grand écran, encore plus grand que celui-là. Et donc là, l'ingénieur, il est en train de faire le même geste que l'ouvrier fera sur la... Vous voyez, le geste est vraiment très similaire parce qu'on s'est projeté dans une voiture virtuelle à échelle 1. Donc on a exactement les mêmes conditions. On lui a même donné un outil virtuel pour qu'il fasse le montage de la petite platine avec le vissage, etc. Hein, donc on va chercher à être de plus en plus réaliste. Et c'est pour ça qu'on parle de réalité virtuelle, parce que on veut être le plus proche possible de la réalité pour que ça soit représentatif de ce qui se passera quand on sera vraiment après dans la réalité. Alors pourquoi ? Alors on a déjà commencé à en parler. Hein. Pourquoi on fait du virtuel ? Alors on l'a vu, les premières fois que je... En tout cas moi dans mon cas, les premières fois que j'ai vu ce qui ressemble à de la réalité virtuelle ou à des images de synthèse, c'était quand on voyait des concept cars, vous savez, ces voitures très futuristes qui sont dessinées par les ingénieurs et après on les représente en 3 dimensions. Hein, comme ça, on peut tourner autour, les voir sur toutes les coutures, et on voit des objets complètement improbables. Et alors ça, c'est très facile à faire en numérique. Et après, dès qu'il faut le construire, bah, ça coûte très cher. Donc, on va les faire le plus longtemps possible en numérique, les utiliser le plus longtemps possible en numérique pour tester l'apparence, pour tester l'ergonomie, pour tester le fonctionnement. Alors, je reviens un petit peu sur ma maison mère, puisqu'aujourd'hui, grâce à la simulation, on teste entièrement le fonctionnement d'une bombe atomique. Oui, le CEA, je pense que parmi les grands reproches qu'on peut lui faire, on peut aussi dire que c'est se rappeler que c'est le CEA qui fabrique la bombe atomique. Hein, c'est pas Thales, c'est pas Thomson, c'est moi, c'est ma société qui fabrique des bombes atomiques et qui les met à disposition de l'armée française. vous comprenez bien qu'on ne peut pas mettre ça dans les mains d'une société privée, hein, donc c'est quand même bien que ça soit un institut public qui s'occupe de ça. Donc vous voyez qu'on est très très près du terrain. Mais le principe de la dissuasion militaire, la dissuasion atomique, hein, c'est de dire j'ai une bombe atomique, je peux vous détruire quand je veux, si vous m'embêtez, mais je ne peux jamais vous montrer que c'est vrai. C'est un peu comme si vous aviez, imaginons, une voiture qui va à 300 à l'heure et que vous ne pouviez jamais rouler à 300 à l'heure. Ben, c'est pareil. Donc vous avez une bombe, vous avez dans vos soutes une bombe atomique, et il faut trouver un moyen d'être sûr qu'elle va marcher. Et en plus que les gens y croient, parce que c'est bien de savoir que vous, vous êtes convaincu que votre bombe va marcher, mais il faut aussi que ça se sache, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, on est, mais pas contre les mêmes. Oui, c'est dans une espèce de guerre froide, pas forcément contre les mêmes, mais il y a en effet, c'est le principe de la dissuasion. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas d'ennemis, mais sachez que si vous m'embêtez... C'est pas du terrorisme parce que je ne me cache pas. Si tu m'embêtes, je te tape dessus. Si vous appelez ça du terrorisme, bon, c'est votre choix. Hein. Moi, j'appelle ça c'est de la défense. Bon, pardon. Bah écoutez, aujourd'hui c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé. Pour éviter les guerres, c'est la menace. Comment ? Si personne l'avait, on en reparlerait, oui. Mais malheureusement, on va plutôt dans le sens de tout le monde veut en avoir. Voilà. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de conflits chez nous, quoi. Évidemment, on est du bon côté de la bombe atomique, c'est sûr. Je ne vous le cache pas. Enfin bon, c'est un sujet dont on pourra reparler. Et donc voilà, cette simulation nous permet de faire la dissuasion. Maintenant qu'on a choisi la dissuasion, un bon moyen de le faire, c'est de le faire en simulation et de dire, nous on a des équations qui prouvent que, que si un jour on en avait besoin, on aurait une bombe atomique qui fonctionnerait. Mais on a aussi des outils, des usages beaucoup plus pacifique de la simulation. Aujourd'hui, on peut tester la solidité des véhicules en simulation, et puis on peut vérifier que qu'une voiture va bien résister à un crash en cas de besoin, sans avoir besoin de faire, en faisant de moins en moins de crash réels. Et donc, tout ça fait des économies en temps et en réalisation de maquettes physiques. Voilà. Donc ça, vous avez vu cette démonstration. Voilà. Donc la réalité virtuelle a aujourd'hui des applications très très sérieuses, même si historiquement, ou dans l'imaginaire de certains, de ceux qui, c'est parfois très lié aux jeux vidéo, et je vous montrerai que c'est pas complètement faux. Donc cette réalité virtuelle, je vous apporte plein de nouvelles choses en même temps, donc peut-être je risque de vous embrouiller, si moi-même je suis pas toujours assez clair. La simulation, je vous ai un peu embrouillé en vous parlant de la bombe atomique, parce que la bombe atomique, ça n'est pas de la réalité virtuelle, c'est de la simulation, justement. Alors, quelle est la différence ? Ce qui se passe dans une bombe atomique, ça serait peut-être plus sympa si je prenais un autre exemple pour vous. Hein. Je sens bien que j'accroche pas trop avec vous. Alors, je vais vous trouver autre chose. Voilà, je vais vous trouver autre chose, mais ça va me griller mon... J'ai bien senti. Ça va griller mon exemple d'après, mais je vais vous donner un exemple que vous allez très bien comprendre, qui est la météo. Autrefois, quand on faisait de la météo, les équations, le principe des prévisions météorologiques, c'est qu'on connaît l'état du temps maintenant. On a des équations mathématiques qui nous disent, compte tenu de la pression, de la chaleur, du vent, voilà comment les nuages vont avancer. Donc voilà où il va faire froid, voilà où il va faire chaud. C'est le principe. Et donc ça, comment on le fait ? On fait de la simulation. On dit, je sais ce qu'il fait là, je sais quel vent il fait, donc je simule le déplacement des nuages pour pouvoir dire, dans 24 heures, tel nuage sera à tel endroit. C'est le principe. Si vous faites ça dans une simulation classique, c'est-à-dire une simulation où vous avez le temps, et c'est comme ça c'est ce qu'on reprochait un peu à la météo autrefois, c'est que ce sont des calculs très très compliqués. Et donc ces calculs, il faut tellement longtemps pour les faire, qu'en gros, il fallait 24 heures pour faire le calcul du temps qu'il allait faire dans une demi-heure. Hein? Donc, un jour après, je pouvais vous dire, une demi-heure après le moment où vous me l'avez demandé, voilà le temps qu'il a dû faire. Et puis là, évidemment, on se faisait chambrer. Et donc, les meilleures prévisions sont les prévisions qui portent sur le passé. Hein? Et ça, la météo, comme tous les autres, l'a expérimenté. Donc, la particularité de la réalité virtuelle, c'est qu'il faut faire tous ces calculs très compliqués en temps réel. C'est-à-dire, au moment où je vais simuler le contact de cet objet qui tombe là-dessus, eh bien, il faut que je fasse le calcul de cette chute aussi vite qu'elle va se passer dans la réalité réelle. C'est-à-dire, j'ai des contraintes de temps qui sont énormes et que n'auraient pas des gens qui simulent, par exemple, le fonctionnement. Quand on fait le calcul d'un, je vous ferai des exemples moins guerriers, quand on fait le fonctionnement d'un... Alors, je ne vais pas vous parler de centrale nucléaire, ça va vous énerver aussi, je le sens bien. Alors, un ouragan. Alors, l'ouragan, on va les faire. C'est pour ça que la météo n'est pas un très bon exemple pour ce que je vais vous illustrer, parce que pour l'ouragan et pour la météo, on va faire le calcul. Alors, on peut. Oui, alors, non, oui, voilà, très bien. Voilà, excellent. Bon exemple, le crash test, quand on veut évaluer ce qui se passe quand deux voitures rentrent frontalement. Donc, on va devoir calculer ce qui se passe pendant les 2 secondes où les voitures s'écrasent l'une dans l'autre. Mais là, ce sont des calculs très compliqués. Et si on met 24 heures pour les avoir, c'est pas très grave. Parce qu'on aura quand même évité de casser des voitures, de prendre de la place, de faire des déchets. Des déchets normaux, hein. Et c'est pas parce que... Ouais, non, je vous surveille parce que je sens bien qu'il y a une ambiance un peu hostile, hein. Donc, voilà, ce crash test, on va avoir 24 heures pour calculer ce qui se passe pendant ces fameux 2 secondes de l'écrasement réel de la voiture. Donc, on n'est pas pressé par le temps parce que tout ce qui nous intéresse, c'est le résultat, voir le comportement au bout du fonctionnement de ces, de ce qui se passe, du phénomène d'écrabouillement d'une voiture dans l'autre. La météo, c'est un peu différent parce que c'est encore plus dur que ce que nous on fait, puisqu'il faut qu'il calcule en une heure le temps qu'il fera dans 24 heures. Et donc, il faut qu'il calcule, qu'il simule plus vite que la réalité. Donc, il faut que le météorologiste vous dise, simule en 10 minutes le comportement de tous les nuages pendant 24 heures. Donc, il faut qu'ils aillent encore plus vite que la réalité. Et donc, c'est pour ça que, pendant longtemps, les plus gros ordinateurs du monde étaient les ordinateurs qui faisaient les prévisions météorologiques. Je ne sais pas ce que ça vous fait, les prévisions météorologiques, quand, pour vous, c'est peut-être un fond de carte comme ça, avec une jolie dame ou un joli monsieur devant qui vous dit qu'il va faire beau ou qu'il ne va pas faire beau chez vous. Mais derrière, il y a des gens qui sont extra... Alors, il y a des capteurs partout sur la planète qui mesure la pression, l'humidité, etc. Et puis des équations super compliquées pour modéliser justement le comportement des masses d'air et de l'humidité tout autour de la Terre. Donc, vous voyez, derrière ces fonds de cartes très jolis que vous voyez, il y a énormément de calculs. Alors, ça peut ressembler aussi parfois à du dessin animé, ce que je vous ai montré, hein. Ces jolies formes de couleurs qui rentrent les unes dans les autres. Et avec lesquels on peut jouer, ça ressemble un peu aux jeux vidéo ou aux dessins animés. Alors là, pour revenir un peu plus vers un peu de poésie, je vais vous passer un petit morceau de Blanche-Neige.
Oh, c'est mieux la musique,
hein. Bon, c'est un moment un peu dur, hein. Je suis confus. Alors là, regardez, ce qui est très joli, c'est l'ombre. Vous voyez l'ombre du petit lapin ? Donc le gars, il a dessiné le lapin, il a fallu qu'il dessine l'ombre dessous. Alors il y a d'autres, voilà la petite plume qui vole là. Quand il y a une plume qui s'est détachée, il a fallu que le gars, il dessine la plume qui faisait tous les mouvements, une après l'autre. Et si la trajectoire de la plume n'est pas bien, vous allez le voir, vous allez dire, c'est pas une vraie plume parce qu'elle ne vole pas correctement. Hein, donc là, l'artiste va devoir simuler au mieux tout ce qui se passe dans la vraie vie pour que vous vous disiez « Ah oui, c'est beau, c'est très réaliste, ça ressemble à la vie, mais en même temps, ça ce côté limpide du dessin animé. » Vous voyez, là, il a dû dessiner les ombres les unes après les autres pour que on se dise « Ah, c'est super, il y a l'ombre qui est représentée. » Donc, vous comprenez mon point là. Tout ce que vous voyez là est dessiné image par un artiste. Si l'artiste n'est pas bon, le résultat sera pas beau. Voilà, vous voyez les ombres, on voit qu'elles sont parfaitement en synchronisation avec les oiseaux. Et puis, il y a des tas d'autres exemples. Alors, je crois qu'un peu plus tard, regardez. Ici, on trouve ça super beau parce qu'il y a le reflet, ici, le comportement de l'eau, hein, sur quand on se trempe dedans. Tout ça, tout ça est dessiné image par image. Et donc, il y a des équipes de dessinateurs. Vous avez certainement vu ces images-là, tous ces gars avec leurs planches à dessin. Voilà, tout ça, vous voyez, c'est magnifique, mais c'est dessiné image par image. Et si le gars n'a pas de talent, ça sera pas beau, on n'y croira pas. Et c'est pour ça que je dis que nous, on est, quand on fait de la réalité virtuelle, on est un peu plus fainéant, parce que nous, c'est tout est calculé mathématiquement. S'il y a un objet qui est là, on sait où est la source de lumière et donc on sait la forme de l'ombre. Tout ça est calculé mathématiquement. Si on fait tomber un caillou dans l'eau, il y a l'équation mathématique qui va me donner la forme de la vague à la surface de l'eau. Donc je suis un paresseux, puisque j'ai pas besoin de dessiner image par image. Mais en même temps, je suis pas un artiste, donc c'est pas toujours très rigolo, parce que on veut parfois pas représenter exactement ce qui se passe dans la vérité, dans la réalité. On veut, surtout quand on fait du dessin animé comme celui-là, un peu de poésie et faire que les plumes, elles vont avoir des belles trajectoires, alors que l'équation mathématique dirait, la plume, elle fait ça et point à la ligne. Donc c'est pour ça qu'il faut doser entre un dessin animé qui est vraiment réaliste et puis un dessin qui est aussi à cheval sur le poétique. Par exemple, on voit, c'est pas vraiment le bon moment dans Blanche-Neige, mais les personnages de dessin animé qui se lancent la tête la première dans une porte en bois et qui passent au travers de la porte en bois, mon équation mathématique, elle dira, c'est la porte qui gagne, hein, c'est pas le bonhomme qui passe au travers. Donc il faut bel et bien doser ce qu'on veut mettre dans ces simulations, et puis doser entre le réalisme et la poésie, et on verra que nous, on commence à travailler avec des gens qui font des dessins animés, parce que justement, tous ces calculs automatiques, ça peut leur faire gagner un temps précieux, pour qu'ils ne se concentrent que sur les parties vraiment artistiques qui les intéressent. Si on trouve si on peut faire une joint venture avec un artiste. Bon, alors voilà, donc les jeux vidéo. Il y a des adeptes. Est-ce que je saute le passage sur les jeux vidéo? Non. Il y a quand même des gens qui aiment les jeux vidéo. Alors voilà. Alors je vous montre un jeu vidéo, World of Warcraft. C'est un jeu qui se joue en réseau, qui a pas mal de succès. Alors s'il y a des vrais spécialistes, ils vont reconnaître que c'est pas la toute dernière version de World of Warcraft, mais ça illustre d'autant mieux mon propos. Alors, donc j'ai laissé le nom de la marque pour, je vais agrandir. Voilà. Alors ici, vous allez voir, on est dans un jeu vidéo. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est que cette fois, comme on a besoin d'être en temps réel, c'est-à-dire que quand vous, avec votre joystick, vous donnez un coup d'épée, vous voulez pas que le coup d'épée, il arrive un quart d'heure après. Vous voulez que ça arrive tout de suite. Et donc, vous allez voir, les personnages sont beaux. C'est pas aussi beau que dans Blanche-Neige. Les personnages sont très simplifiés. Parce que c'est des jeux vidéo, c'est souvent guerrier, hein. Et puis surtout, ça illustre ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire, quand on donne un coup d'épée, alors fermez les yeux, mesdames, quand on donne un coup d'épée dans un méchant, quel que soit l'endroit où vous donnez votre coup d'épée, si vous passez à une distance raisonnable du méchant, le méchant meurt. Hein, donc là, on va pas faire un calcul très fin du calcul des 100 000 triangles de l'un avec les 100 000 triangles de l'autre. Si mon épée, elle passe à moins de 10 cm du méchant, le méchant meurt et point à la ligne. C'est en ce sens que là, on simplifie énormément le... Voilà, et vous voyez, tous les mouvements sont un peu simplifiés. Pardon ? Vous avez vu Tigrou se faire couper en deux. Et alors, encore une fois, là, Tigrou qui se fait couper en deux, c'est assez... voilà, et alors là, dans les combats... Ah, pardon. Bon, enfin, voilà, donc vous voyez, le jeu vidéo, lui, il est temps réel, puisqu'on veut que ça bouge en même temps que moi, je bouge mon joystick. Mais en revanche, il n'est pas très, très précis. Hein, et je ne voudrais pas... Et voilà, donc je voudrais pas tester une opération chirurgicale avec ce degré de précision, parce que voilà, là je risque de dire mon opération fonctionne alors qu'en fait voilà. Voilà, donc la difficulté de la réalité virtuelle, c'est qu'on veut que les simulations qu'on fait en réalité virtuelle soient représentatives de ce qui se passe dans la vraie dans la réalité, afin de pouvoir en tirer des leçons sur ce qui se passera quand on passera à la réalité. Les films d'animation. Alors, on a vu tout à l'heure Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, c'est du dessin animé d'autrefois, c'est-à-dire on dessine image par image. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être les dessins 3D, hein, les dessins du type Toy Story. Là, on se rapproche plus de la réalité virtuelle, parce que derrière tout ça, il y a des modèles mathématiques. Moi, je suis allé à tous les ans à une grande conférence aux États-Unis qui s'appelle le SIGGRAPH, où se retrouvent les gens qui font ce qu'ils appellent du computer graphique, donc c'est-à-dire du dessin sur ordinateur. Et on y trouve là les meilleures universités du monde et qui font toute la donc là cette fois une vraie simulation mathématique du comportement de personnages en trois dimensions. Donc là je vous repasse le. Donc ça c'est un produit. J'ai perdu ma souris. Voilà. Ça c'est un produit qui s'appelle Endorphine, qui est fait par des Anglais. Voilà. Et donc ici, on a défini ce personnage-là et on lui a donné une trajectoire. Et après, c'est les équations de la physique qui disent je tombe avec un demi de GT2, la collision avec la table fait que la table s'explose, les gens sont poussés en arrière, la vitesse initiale fait que la force initiale qu'ils reçoivent leur donne une vitesse et en fonction de leur position initiale, ils tombent ou ils tombent pas de leur chaise. Donc là, on est très proche de ce que je vous expliquais, c'est-à-dire on a un modèle mathématique, on donne. Et puis dans ce modèle mathématique, on me donne des conditions initiales et après on voit comment tout ça se déroule. Alors vous voyez, c'est assez satisfaisant. On se dit que ça ressemble assez bien à une vraie bagarre avec des vrais gens. Mais peut-être qu'après, l'artiste, partant de cette base-là, il va dire « je préférerais que celui-là il se retienne un peu plus longtemps parce que comme c'est lui le héros, je préférerais qu'il ne tombe pas tout de suite. » Ou au contraire, qu'il prenne tout de suite la baffe du méchant dans la figure et qu'il tombe le premier. Donc on va après, l'artiste, en fonction du scénario, il va tordre un peu ce qui se passait dans le calcul pour transmettre ce qu'il voulait vraiment raconter dans son scénario. Eux, c'est comme la simulation du crash des voitures. C'est pas très grave si c'est pas fait de façon interactive, si c'est pas en temps réel. Si cette scène de chute que vous voyez là, elle a été calculée par l'ordinateur en 8 heures de calcul, c'est pas très grave. Le soir, l'animateur, il dit voilà, ma scène, j'ai construit ma scène. Je pousse mon bonhomme en haut, et puis demain matin, je viendrai voir ce que ça donne comme image. Voilà. Donc là, ils n'ont pas la contrainte du temps réel. Donc nous, notre simulation interactive, notre réalité virtuelle, elle doit faire la même chose, mais en temps réel. C'est-à-dire aller très très vite. Vous me suivez jusque-là ? Hein ? Je pense qu'on a touché ce qui avait de plus dur. Si vous avez bien compris, on cherche à modéliser, à trouver les équations qui décrivent tous les objets qui soient des objets réels ou des personnages. Hein. On va décrire des équations qui vont décrire tous ces objets-là. Et après, on va faire tourner une simulation. Donc, on va faire tourner ces équations qui décrivent le comportement des objets suffisamment vite pour qu'on ait l'impression que ces objets existent vraiment à l'intérieur de l'écran de l'ordinateur. Bon, j'ai encore un film d'animation, donc allez, on va pas s'en priver. Donc là, donc ici on arrive à des animations en 3D qui sont très fouillées, donc qui sont de meilleure qualité que le jeu vidéo qu'on a vu, mais qui sont bien issues d'un calcul. Mais ce calcul n'a pas forcément été fait, comme je vous l'ai dit, en temps réel. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Puis tout de suite, avec une belle voix grave, les choses ont l'air plus sérieuses. Voilà, il y a une. Je ne vais pas tout passer. On voit au début un monstre. Voilà. Ouais, tous ces brins d'herbe ont une équation qui les modélise leur comportement. Pareil pour tous ces cheveux qui pendouillent là. Tout ça, il y a des équations mathématiques qu'on va faire tourner pour voir comment les cheveux se balancent. Pareil pour l'épée là qui pend au bout de la main du squelette. Donc là, on est très près de ce que nous on fait. Alors il va y avoir à la fin, je crois qu'on voit un sorcier qui jette moi je suis désolé, c'est un peu violent, hein. C'est des exemples pour les. Voilà, alors regardez ici là, les petites flamèches, tout ça, c'est super joli et c'est énormément de calculs pour arriver à le faire. Mais comme on a du temps, comme le film sort dans 6 mois, ils ont le temps d'avoir des équations qui vont représenter très exactement ce qui se passe dans la réalité. Hop, allez. Bon, je vous repasserai Blanche-Neige à la fin, je vous promets.
Merci.
Bon, maintenant on va passer, à ce que nous faisons aujourd'hui en réalité virtuelle. Et comme je vous le disais, notre proposition, c'est de pouvoir aider, par exemple, un artiste qui fait des dessins animés ou aider un concepteur. Donc là, ce que je vous ai illustré sur ce petit film, c'est le comportement d'une pince en plastique. Alors vous voyez très bien comment vous avez un petit clip, vous voyez ce genre de clip qu'on va clipser sur un cylindre. C'est une pince qui est en plastique et donc qui peut se déformer. Je vous décrivais tout à l'heure que non seulement il faut trouver quand il y a la collision, mais après il faut voir comment se comporte l'objet quand on continue à appuyer au-delà de la collision. Donc un objet rigide, il s'arrête, mais un objet en plastique, il va se déformer. Donc là, non seulement, alors ce qu'il faut regarder, c'est que d'une part, la pince ici va se déformer quand on va appuyer dessus, mais ici la main qui est censée tenir cette pince en plastique, vous allez voir, elle a exactement le comportement qu'elle aurait si elle tenait cette pince, c'est-à-dire qu'elle va s'appuyer et comme si elle rebondissait un peu, et puis quand elle va faire la saisie, vous allez voir la main qui est bloquée un moment, et hop, brutalement, qui tombe vers l'avant parce que le grip a pris. Et pareil après quand on va dégripper la pince, déclipser la pince. Alors je vous le refais, maintenant que vous savez ce qu'il faut regarder. Donc vous voyez ici, la pince se plie, donc la main avance et est légèrement repoussée par ce petit robot là. Et là, on va pousser pour clipser, et hop, la main est prise, et là, on tire pour retirer, et hop, vous voyez, la main. Et donc là, vous avez vraiment l'impression de sentir un objet en plastique, un objet flexible, et tout ça est possible parce que ce calcul est fait en temps réel, donc est fait de façon interactive. Et derrière tout ça, bah là, il y a un jeune ingénieur qui a passé 3 ans de sa thèse pour faire cette petite démonstration. Donc pour vous montrer la complexité. Et c'était plutôt quelqu'un de bon, parce que j'entends déjà ce que vous allez me dire, c'était sans doute un imbécile. Non, c'était quelqu'un de brillant. Mais derrière cette simple démonstration, vraiment très simple, pour la vie quotidienne, pour ce que nous on fait tous les jours, eh bien, derrière ça, il y a énormément d'efforts et d'astuces. Alors, où j'en suis? Je vais pas regarder l'heure de départ, alors je fais le malin en regardant l'heure où il en est, mais... Voilà. 40 minutes. Bon, ça fait une mi-temps. Voilà. Bon, alors autre simulation, les fameux dinosaures que je vous montrais tout à l'heure. Non seulement il faut calculer les collisions entre eux. Alors au début, je disais, voilà, il y en avait deux, mais on a progressé. C'était une vieille photo. Et voilà, donc ça, c'est ce qui a été fait l'été dernier. Voilà, donc là, cette fois, on a une tripotée de dinosaures. Et non seulement ils sont plusieurs, mais en plus, ils sont flexibles. Donc on va calculer ici en temps réel leur comportement quand ils tombent les uns sur les autres et puis qu'ils rebondissent après suite à la gravité. Comment ? Non mais aidez-moi.
Sait-on jamais si un jour on n'a plus de
dinosaures ? Eh bien, nous... Ben voilà, donc on va vendre ça à la météo. Non, en fait, on essaye toujours parce que pour démontrer un tic des scientifiques. Pour frapper la communauté scientifique, c'est bien d'avoir des démonstrations qui sont un peu hors normes. Si je démontre d'avant, j'avais une théière qui tombait. Alors c'est bien d'avoir une démonstration d'une théière qui tombe sur une éponge, mais c'est quand même plus rigolo. Là, on va dire, ah, t'as vu la démo des dinosaures du CEA? Les gens, tout de suite, ils savent ce que c'est. Exactement. Je suis heureux de vous l'entendre dire, c'est de la com. Même dans la science, il faut communiquer. J'en suis la preuve vivante. Ah, malheureusement, alors là, je me suis trompé. Alors, je sais déjà les lacets. Alors, j'ai arrêté la vidéo. Alors là aussi, ça, c'est un des développements les plus récents. Et là, on est aussi parmi les premiers au monde à arriver à faire ça. Ça, c'est tout bête. Vous prenez une ficelle ou un câble électrique et puis vous le tournez. Alors, vous savez, donc ça fait assez... Vous avez certainement fait l'expérience. Quand on tourne un câble sur lui-même, il va d'abord faire un enroulement assez régulier, assez joli. Les spires vont bien s'aplatir les unes sur les autres avec des contacts, ce qu'on appelle des autocontacts, c'est-à-dire que la pièce vient elle-même en contact avec elle-même. Et au bout d'un moment, vous avez sûrement expérimenté ça, les enroulements deviennent irréguliers. Ça fait des espèces de, ce que nous on appelle des non-linéarités, donc des espèces de petits nœuds qui partent dans un sens ou dans l'autre, sans qu'on sache vraiment très bien pourquoi. Et bien là, en simulant ça sur notre câble, on a eu exactement le même comportement. Donc en tournant notre câble virtuel, on a vu d'abord les jolies spires s'enrouler proprement les unes sur les autres, et quand on continue à tourner, voilà qu'apparaissent ces petits nœuds dans tous les coins, et on a eu exactement ce comportement-là. Et là, on a été... voilà. Et donc on a montré ça à des gens qui font de la CAO, conception assistée par ordinateur, ce sont les logiciels qui permettent de dessiner les pièces, par exemple les voitures qu'on a vues là. Et un des plus grands fournisseurs de CAO, donc de conception assistée par ordinateur du monde, c'est un Français qui s'appelle Dassault Systèmes. J'ai dit Dassault Systèmes, qui sert à dessiner des avions Dassault, mais voilà. Et donc j'aurais dû dire, le logiciel s'appelle Katia, c'est beaucoup plus joli. Vous êtes trop forte. Allez au fond. Donc ces gens-là qui font de la CAO toute la vie, toute la journée, nous ont dit que cette simulation-là, en temps réel, ils ne l'avaient jamais vue. Et donc, ils étaient là, on est en train d'essayer de leur vendre cette technologie. Alors, où est-ce que j'en... Alors, ça recommence. Vous l'avez déjà vu. Je vais passer à la suite parce que j'ai encore... Voilà. Alors là, je sais que vous aimez ça, je vous le mets. C'est de la radioactivité, c'est des rayonnements. C'est un monsieur qui se promène dans une installation nucléaire et qui prend des rayons gamma, alpha et bêta. Alors, c'est un nomade. Vous ne croyez pas si bien dire parce qu'il se promène voilà, dans l'installation nucléaire. Mais c'est une installation nucléaire virtuelle. Et donc, on est capable de calculer en temps réel la dose de radiation qui va se prendre. Et alors ça, c'est extrêmement utile parce que on va entraîner des équipes à faire des interventions dans un monde virtuel, et on va voir le taux de radiation qu'ils vont prendre. Et comme ça, on est capable de dire le niveau de radiation qu'il aura pris pendant cette intervention-là est suffisamment bas pour ne pas mettre sa vie en danger, soit c'est trop haut, vous voyez, là, il arrive à prendre des niveaux qui sont importants, et donc l'intervention, le scénario qu'on est en train de tester là, n'est pas raisonnable, il faut soit utiliser un autre scénario, soit envoyer des robots. Et ça, simuler cette physique. Pardon ? Alors, depuis, c'est pour ça qu'on refuse de les rentrer dans l'Europe, parce qu'après, on n'aura plus le droit de s'en servir. Alors, le turc est peu utilisé dans les installations nucléaires. L'Allemagne, chacun ses problèmes. Voilà donc, j'ai perdu mon fil avec tout ça. Ben, je vous en prie, c'est votre boulot. Ce que je voulais, la dernière chose que je vais vous dire, c'est que cette physique du rayonnement, connaissant les sources qu'on a de rayonnement dans un coin, calculer la dose que prend un opérateur en temps réel, c'est extrêmement compliqué. C'est des équations qui sont du type de la complexité de celle de la météo. Et encore une fois, la difficulté, c'est de les faire tourner en temps réel pour qu'on puisse simuler dans des conditions vraiment réalistes un scénario d'intervention dans une installation comme celle-là. Vous avez des centrales nucléaires dans la région ? Là ? Attendez, je ne suis pas bon en géographie, mais Tricastin, je crois que... Belleville. Alors, voilà, on va simuler aussi le son. Voilà, on a ici deux pièces métalliques et on est capable en temps réel de simuler le son que font les objets quand ils rentrent en collision. Mais on peut aussi rajouter, alors là on s'éloigne un peu du concept de réalité virtuelle, parce que ce qu'on cherche à faire là-dedans, c'est à ce que l'utilisateur qui va faire ce test de montage dans le monde virtuel, il comprenne vraiment ce qui se passe. Et par exemple, parfois quand les contacts sont très compliqués, il est difficile de comprendre quel objet touche et à quel endroit il touche. Donc là, on a mis des différents moyens. Alors déjà, on voit le retour sonore qui fait que le gars comprend bien qu'il y a une collision. Et la force du retour sonore lui indique le type de contact qu'il y a. Et là, on utilise d'autres des indices. Donc par exemple, on imagine que les pièces sont comme des stylos. Donc elles vont écrire là où elles ont frotté. Donc pendant un moment, on a une très bonne idée de l'endroit où les pièces ont frotté. Et comme ça, ça aide à faire le bon geste et à mieux comprendre le contact. Vous allez voir pourquoi on a des problèmes parfois de compréhension de ce qui se passe dans le monde virtuel. Malgré tous nos efforts de représentation graphique, on est parfois un peu perdu parce qu'on n'est pas tout à fait aussi à l'aise devant un objet virtuel que devant un objet réel. Et donc, il faut aider les opérateurs à comprendre ce qui se passe dans le monde virtuel. Alors, le retour d'effort en est un, le retour sonore est un autre. les effets graphiques que je vous ai montrés, donc des petites, comme on voit dans les bandes dessinées, hein, quand on donne un coup de poing dans un mur, dans une bande dessinée, il y a des petites étoiles qui apparaissent autour, donc c'est un peu ça qu'on a reproduit ici. Et ici, vous voyez, on est en train de simuler en temps réel, donc la personne, la jeune personne avec un dispositif à retour d'effort haptique, donc manipule tout ce toron de câbles, donc tout ce... Il y a un mot qui m'échappe pour décrire ça. Oui, une espèce de sculpture de câbles, c'est sans doute pas le mot qu'ils utilisent chez Renault, mais et pour aller le brancher sur le moteur. Et donc, dans ces cas-là, bah, comme le câble, il a une quinzaine de terminaisons, quand on sent que la main est bloquée parce que le câble touche, il est parfois difficile de comprendre quel bout du câble touche à quel endroit. Et donc, une pieuvre, absolument. Et voilà, donc ici, on va mettre des petits indices, des indications graphiques pour indiquer quels sont les endroits qui touchent les premiers, comme ça, ça va nous aider à dire, ah bah, c'est tel endroit qui est bloqué. Vous avez certainement expérimenté ça, hein. Parfois, on essaye de faire un montage et ça passe pas et on a du mal, ou alors qu'on ferme un placard. Voilà, moi, ça m'est arrivé ce matin, je voulais fermer un placard, ça fermait pas. Mais impossible de savoir si ce qui bloquait était en haut ou en bas. Donc j'aurais eu une petite lumière qui s'allumait là où ça coinçait, ça m'aurait beaucoup aidé. Et donc là, c'est ce qu'on va lui offrir aussi. Vous voyez ici, il y a des petites lumières rouges qui s'allument quand certains bouts de la pieuvre vont taper le moteur. Donc on va l'aider à s'immerger dans la réalité virtuelle. Et là, en trichant un peu, puisque c'est plus de la réalité qu'on affiche, c'est autre chose, c'est un petit plus. Et donc là, c'est plus vraiment de la réalité virtuelle, c'est de la réalité augmentée. Puisque en plus de la virtualité et du réel, on va rajouter des indices qui ne sont pas dans le vrai monde, mais qui vont aider à comprendre ce qui se passe quand on doit travailler avec des objets virtuels. Et l'homme dans tout ça, hein, puisque on arrive là à la deuxième de mes 8 parties. Non, c'est la dernière. Donc c'est sur l'homme. Donc maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous dit c'est très bien. On sait que les pièces peuvent se monter, mais à la fin, il y aura quand même un bonhomme qui fera le montage de la pièce. Et c'est pas tout de savoir que les pièces peuvent se monter. Il faut savoir est-ce que le gars aura le bras assez long, est-ce qu'il sera dans une position ergonomique. Donc nos partenaires industriels nous ont dit, bah maintenant, on veut simuler aussi le bonhomme qui va faire le travail. Voilà, donc on peut modéliser en fonction du type qu'on utilise. Alors d'abord, on a fait, donc je reprends une image de Blanche-Neige. Hein. Vous souvenez, hein, c'est le miroir qui dit « tu es belle, ô marraine, mais Blanche-Neige est plus belle que toi ». Voilà, donc un miroir magique. Donc nous, on s'est fait un miroir magique aussi. Alors lui, il manque... Voilà. Donc je bouge, enfin bon, c'est mon camarade Christophe bouge, et il y a ici son reflet dans le miroir qui bouge aussi. Donc là, il y a un système qui va capturer la position des mains de Christophe et puis recopier la position des mains dans du reflet virtuel dans le monde virtuel. Et la particularité, c'est que mon pantin ici virtuel, il a une existence physique. Et donc, s'il y a des objets dans le monde virtuel, eh ben, il peut... les pousser et les faire tomber. Vous voyez, alors que lui, il pousse rien du tout, hein, puisqu'il est dans un monde, dans notre monde à nous, il n'y a aucun des objets. Donc ça, c'était la première étape, être sûr qu'on peut piloter un humain virtuel, et puis que cet humain virtuel est capable d'interagir de façon temps réel avec son environnement. Et donc là, vous voyez, on a réussi cette première étape. Donc ça, c'est l'étape de base. Hein. Je contrôle les mouvements, je tiens la main de mon humain virtuel, et puis on voit ce qui se passe dans le monde virtuel. Et l'étape d'après, c'est d'avoir un humain virtuel qui va nous aider un petit peu plus. C'est-à-dire qui est capable de dire, le geste que tu me demandes de faire dans le monde virtuel, je peux le faire ou je peux pas le faire. Donc mon humain virtuel de base, si je lui demande de faire ça, il va tomber. À moins d'être fortement entraîné. Alors l'exemple que je prends est plus simple, c'est l'exemple du contrôle de l'équilibre. Ici, moi je pilote les mains de l'humain virtuel et je vais lui demander... La position que je lui demande, c'est les petites taches violettes. Donc lui, je lui demande de les emmener. Alors lui, il obéit bêtement. Et donc, il va se mettre dans une position complètement inconfortable parce qu'il n'a pas de propre contrôle. L'humain virtuel, là, c'est juste un pantin. Il ne sait pas contrôler son équilibre. Lui, il sait contrôler son équilibre. Il y a un logiciel qui gère sa position et qui va dire, bah, certaines positions qu'on me demande, je les refuse parce que ça va mettre en péril mon équilibre. Donc l'humain virtuel est capable de dire, tel geste qu'on me demande, je ne pourrais pas le faire. Si quand je serai un homme réel, je ne pourrais pas faire ces gestes-là. Et donc, je sais bien que ce qu'on me demande, c'est d'emmener mes mains loin par là, mais je sais aussi que ce qu'on me demande, c'est de ne pas tomber. Et donc, je refuse ce qu'on me demande de faire et je ne vais qu'au maximum de ce que me permet de faire mon équilibre. Donc, vous voyez, là, j'ai mis dans mon humain virtuel, ça n'est plus un simple pantin, c'est un humain virtuel avec un début d'intelligence, au moins un début de réflexe qui dit, bah, ma tâche principale, c'est de ne pas tomber et donc, c'est ça que je fais passer en premier. Donc, voilà, tout ça, c'est des calculs. Il y a un logiciel. Voilà. On a un logiciel qui en temps réel, donc à chaque instant, vérifie la position de chacune des articulations. Et puis, si on va faire emmener le centre de gravité au-dessus de la sustentation, enfin, des plantes des pieds, eh bien là, on va bloquer le geste. On verra qu'on peut faire même encore mieux après. Mais voilà, ça, c'était pour vous montrer comment on va petit à petit rendre notre humain virtuel de plus en plus intelligent. Évidemment, ce qu'on aimerait, à terme, c'est l'humain virtuel lui dire, ben voilà un moteur de voiture, tiens, voilà la portière, mets-le à l'intérieur. Et qu'après, il se débrouille. Hein, donc, il faudrait qu'il soit très, très intelligent. Mais c'est le but ultime de nos travaux. Alors voilà, l'étape d'après, notre humain virtuel, on va, alors pour vérifier qu'il tient bien en équilibre, on l'a soumis à des tortures. Donc on l'a mis sur un plateau et on va secouer le plateau. Et vous voyez, le logiciel va faire tout ce qu'il faut, va faire bouger les bras, va faire bouger les pieds pour le faire maintenir en équilibre. Mais si on le secoue trop, on va aller au-delà de ce que peut faire la force, de ce que permet la vitesse des articulations, et le personnage va être incapable de maintenir son équilibre. Donc ça, c'est un cas extrême, hein, mais c'est pour dire, notre ouvrier, quand il sera sur la chaîne, si on lui demande, si on le fait travailler dans des conditions qui ne sont pas possibles, on le verra tomber, on le verra se cogner, et donc on sera capable de dire l'ergonomie d'un poste tel que vous l'avez conçu n'est pas raisonnable. L'humain virtuel nous a montré que ce que vous lui demandiez de faire n'était pas possible. Alors évidemment, quand le thésard a trouvé ça, on lui a demandé de faire plein de trucs avec son humain virtuel. Alors oui, d'abord on lui a dit, ben voilà, imaginons que la tâche qu'on ait confiée à notre humain virtuel, c'est de peindre et qu'il y a un tremblement de terre. Voilà, et donc vous voyez ici, pendant le tremblement de terre, il va s'arrêter de peindre, il va maintenir son équilibre, et après il reprend avec une extrême précision la suite de son geste. Voilà, donc tout ça, c'était de la démonstration, voir est-ce que le contrôleur d'humain virtuel est suffisamment robuste pour supporter de telles perturbations. Alors voilà encore une perturbation. Boum, on donne un grand coup de balancier. Et donc, c'était la question qu'on nous posait. Est-ce que quand on donne un grand coup de balancier à quelqu'un qui est debout, qui ne peut pas bouger les pieds, est-ce qu'il tombe? Et donc, après des années d'études, on a dit oui. Et question suivante. Est-ce que... Non. Voilà, et là, on lui a permis de bouger un pied. Et donc, question, est-ce que si on donne un coup dans le dos à quelqu'un qui a le droit de mettre un pied en avant, est-ce qu'il va tomber? Ben non, il ne tombe pas. Donc voilà, et tout ça, encore une fois, là, il n'y a pas d'artiste derrière, c'est que des mathématiciens qui trouvent les équations qui vont permettre de faire bouger notre personnage pour résister au... Et de la même façon, vous voyez les deux bras qui partent de part et d'autre, c'est pas du tout nous qui avons dit il faut mettre les bras comme ça pour tenir en équilibre. C'est le logiciel qui dit que le meilleur résultat pour résister à cette agression, c'est d'avoir un réflexe comme celui-là. Et ça nous a d'ailleurs... Oui. Bah oui. Alors ça, c'est quelque chose qui nous a... C'est très bien que... Vous êtes formidable. Heureusement qu'on a répété. Hein. Donc quand j'ai montré ça à des gens qui font du dessin animé, ils ont dit, ah, ça c'est super, ça nous ferait gagner vachement de temps, parce que nous on est tout le temps en train de taper sur nos personnages, et donc si on pouvait en effet avoir de façon automatique la réaction à ce type de sollicitation, ça serait super. Mais je suis sûr que votre truc, ça marche pas si le personnage il a une grosse tête, des petits pieds, voilà, si c'est un personnage de dessin animé. Alors on lui a dit, si, parce que comme c'est mathématique, nous on s'en moque de la forme, il suffit de changer des paramètres dans nos équations, et on va transformer un bonhomme tout bête comme ça en une fillette comme celle-là. Vous voyez qu'elle a des gros pieds, une grosse tête, un tout petit buste. Il suffit juste de changer quelques paramètres dans notre équation. Et puis, bah voilà, quand on va la secouer, pareil, bah elle va... Voilà, elle a une grosse tête, donc elle a plus de mal à se retenir, hein, mais elle a quand même ce premier geste. Et après, bah, ils ont passé, eux, leur, ce qu'ils appellent leur modeleur, hein, qui va donner une apparence un peu plus jolie au personnage. Et on a ce comportement automatique de personnage de dessin animé, alors qu'aujourd'hui, ça, ils ne savent pas le faire. Tous les logiciels de dessin animé, il faut qu'il y ait un animateur qui dessine image par image, quasiment, la trajectoire que va prendre le personnage pour résister à un déséquilibre de ce genre. Donc là, vous voyez, ça peut faire gagner un temps précieux aux animateurs pour avoir des résultats. Alors vous voyez, par exemple, si l'ombre, elle est complètement calculée. Là, c'est pas nous, mais pour vous montrer ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Blanche-Neige, aujourd'hui, les équations permettent de simplifier énormément tout ce... Tout, alors, bon... Voilà. Et alors, est-ce que vous avez vu Rumba ? Donc il y a un film qui est sorti récemment là où on voit deux danseurs et il y a leur ombre qui se rebelle et qui et, ou alors non eux sont fatigués, ils marchent pas, mais il y a leur ombre qui vont danser. Donc évidemment ça, les équations mathématiques peuvent pas permettre de le faire, mais voilà, tant qu'on reste dans une vraie représentation de la réalité, eh bien on a les équations permettent de tout modéliser. C'est à la fois effrayant et à la fois rassurant. Alors voilà, je pense qu'on arrive un peu au bout. Voilà, maintenant on va passer à d'autres applications, pardon, de cette réalité virtuelle. Par exemple, l'entraînement des chirurgiens. Voilà, donc voilà le domaine médical. Vous savez que aujourd'hui la France est un. Alors aujourd'hui, pour former un dentiste ou un chirurgien à faire ce type d'opération, bah il va faire ça avec un patron et puis qui va lui tenir la main ou qui va le Bon, de moins en moins, on fait d'expérimentation sur cadavres. La France est un des derniers pays où on peut s'entraîner sur cadavres, mais d'une part, on manque beaucoup de cadavres, et d'autre part, et bientôt, on n'aura plus le droit en France non plus. Mais j'ai appris d'ailleurs quelque chose à cette occasion-là, c'est que pour qu'on fasse d'expérimentation sur votre cadavre, il faut le dire, voilà, il faut faire un don à la science. Parce que par défaut, vous êtes un don d'organes et on ne peut pas servir de quelqu'un qui veut être un donneur d'organes, on ne peut pas s'en servir pour entraîner des étudiants. Donc c'est vraiment... Bon, ça, j'ai appris ça à cette occasion-là. Mais il faut que le gars, il ait dit avant s'il voulait faire don de son cadavre à la science. Bon, alors... Pardon ? Donc ici, la particularité, c'est qu'on fait du temps réel, on va simuler la fraise de dentiste et on va ressentir exactement l'effort qu'on ressentira quand on découpera la mâchoire, avec en plus une assistance qui est que le robot va retenir le geste du chirurgien quand il va trop s'approcher de cette zone-là qui est le nerf maxillaire qu'il ne faut absolument pas toucher pendant l'opération. Alors ça, c'est une manip. Alors, je vais vous lancer, si vous avez encore un petit peu de courage. Alors, là, on n'est pas allé au bout du concept, mais on... Voilà, le principe, c'est que le robot et le chirurgien tiennent ensemble le même outil. D'accord ? Donc, ça, c'est la main du chirurgien, ça, c'est le robot, et tous les deux tiennent le même outil. Alors, on ne l'a pas fait sur une vraie mâchoire. Hein. Donc, on a fait une fausse mâchoire en plastique. Le chirurgien fait son opération. Et le robot va guider son geste. Donc le robot va lui permettre de rester dans la zone qu'il avait décidé de découper. Donc là, on s'appuie sur un modèle virtuel de l'opération. Donc le chirurgien a expliqué au robot, via le virtuel, l'opération qu'il voulait faire. Et là, l'opération qu'il veut faire, n'ayez pas peur, il n'a pas souffert. C'est découper une espèce de rectangle dans cette plaque de bakélite. On creuse jusqu'au fond de la plaque de bakélite au début. Et on laisse une partie du polystyrène à l'arrière. Donc là, le chirurgien découpe dans la partie où il a le droit de découper, donc il découpe largement. Et là, vous voyez, ici, il est arrivé à... Alors, on devine presque... Il arrive à creuser jusqu'au fond, jusqu'à la deuxième couche de bakélite. Et ici, il essaye de creuser plus, mais il n'arrive pas à descendre. Vous voyez, il a réussi là. Il a atteint le jaune qui est en bas. Et ici, il essaye de creuser plus loin, mais le robot retient son geste. Donc là, l'homme et le robot, et grâce au virtuel, se partagent les tâches sur la réalisation d'une opération comme celle-là. Le robot apporte la précision géométrique et le chirurgien apporte la finesse du toucher, la vitesse avec laquelle il faut creuser le muscle, l'os pour pas l'éclater. Voilà. Donc, comment on peut utiliser la réalité virtuelle pour aider l'homme dans le monde réel aussi? Voilà. Et puis, dernière application, je crois, parmi les dernières, l'aide à la rééducation. Donc là, c'est un reportage qui avait été fait par France 1 quand on faisait l'essai. C'est moi qui vais faire les commentaires. Donc voilà, ici, vous voyez cette interface haptique, donc interface à retour d'effort, qui est couplée à un jeu vidéo. Et là, le bras robotisé va guider la main de la personne en rééducation, comme le ferait la main d'un kiné pendant ses exercices de rééducation. Mais comme le robot a une très grande précision, il peut mesurer. Alors, voilà, il peut mesurer avec beaucoup de précision le geste de la personne et puis mesurer la vitesse et donc les progrès d'une séance à l'autre. Et puis, il peut aussi guider le geste avec beaucoup de précision. Par exemple, voilà, là, la main est bloquée le long d'un cercle parce qu'elle simule de tourner la manivelle d'un puits. Et donc, le robot guide le geste et n'autorise pas de mouvement en dehors de ce cercle vertical qui représente la manivelle du puits. Et grâce au virtuel, on peut faire autant d'exercices qu'on veut. Aussi compliqué, faire des trajectoires très très compliquées, ou alors même des exercices qui vont être non seulement physiques mais aussi cognitifs. Là, on va lui demander à la personne, je crois, d'empiler des cubes. Alors pour lui, c'est pas trop compliqué, mais il y a des personnes qui reviennent de traumatismes où il faut aussi leur réapprendre à comprendre leur environnement, à ordonner leurs gestes. Donc là, le virtuel sert à la fois aux deux. À la fois, il y a un exercice sur le plan de vue cognitif, mais aussi un exercice physique pour faire les bons gestes, pour aller faire l'empilement qui va bien. Donc ça, ce système, alors aujourd'hui, on était à deux doigts de le commercialiser, et aujourd'hui, on a une version beaucoup plus simple qui est commercialisée avec juste un seul câble pour l'instant. Donc on peut simplement contrôler le mouvement d'avancer et de reculer du bras ou de la jambe. Et puis, les versions précédentes seront comme celle-là, piloteront la main en trois dimensions. Voilà, il y a tellement de choses à dire, je crois que j'arrive un peu au bout de votre patience. Ces interfaces à retour d'effort ont été utilisées pour sculpter de la matière glaise virtuelle, parce qu'il y a encore beaucoup de personnages de dessins animés qui sont sculptés dans la glaise. Il y a beaucoup de créateurs qui aiment ce contact-là. Et là, on arrive à avoir une glaise virtuelle et les créateurs retrouvent les mêmes sensations qu'avec de la glaise et sans l'inconvénient qui est qu'on en met partout, c'est salissant, c'est pas développement durable. On manipule aussi des molécules virtuelles, donc on peut tester en virtuel comment les molécules vont s'accrocher au complexe actif pour être efficaces ou non quand il s'agit de médicaments. Voilà. Et donc en fait, pour conclure, je pense que vous aurez compris que le vrai thème de la soirée, c'était plutôt comment le virtuel peut être de plus en plus réaliste. Et donc plutôt que le sujet que j'ai donné, c'est comment la réalité peut-elle être virtuelle. En fait, le vrai exposé que je vous ai fait, c'est comment le virtuel peut-il être vraiment réel. Comment on peut donner de plus en plus de réalisme à des objets qui sont simplement numériques et virtuels. Alors voilà ce qu'il nous reste à faire. Comme je dis, des humains virtuels toujours plus intelligents, travailler sur la fatigue musculaire pour être capable d'évaluer une ergonomie d'un poste, plusieurs humains virtuels qui travailleront ensemble, simuler que des objets puissent être cassés, et puis des liquides, voilà. Donc on a encore des tas d'années de recherche devant nous pour que cette réalité virtuelle soit de plus en plus utile, utilisable et représentative de ce qui se passera dans la réalité ensuite quand on mettra en œuvre les vrais objets qui se cachent derrière ces objets virtuels. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.
Si vous avez des questions, il y a un micro baladeur là, donc si profitez-en, hein.
Après votre exposé, là, je pense à un système qui est d'apprendre à marcher à des gens qui ont été paralysés, par exemple. J'ai vu ça dans les hôpitaux de notamment Montpellier. Mais actuellement, ce n'est pas dans un modèle mathématique. Il y a une personne qui est filmée en train de marcher réellement. Et on compose, on réalise l'aide à l'assistance à la marche d'après ces mouvements, si vous voulez, d'après le cinéma. Ce n'est pas un modèle mathématique pur. Est-ce que vous avez travaillé là-dedans avec les hôpitaux?
Alors, pour être tout à fait honnête, moi, je n'ai pas travaillé sur la rééducation de la marche. Néanmoins, c'est un sujet que je connais un peu. Et il y a des tas de... Dans ce que vous dites, il y a des tas de choses super intéressantes. Alors, ce que fait Montpellier... Enfin, alors, je ne sais pas si cette démo que vous avez vue, mais ce pourquoi ils étaient célèbres, Montpellier, c'était pour des gens qui ont toujours leurs muscles, mais qui n'envoient plus les signaux aux muscles. Donc, par exemple, suite à des problèmes de colonne vertébrale. Donc, l'influx nerveux n'arrive pas aux muscles. Et donc, leur idée, c'est de simuler cet influx nerveux pour faire bouger les muscles et les faire bouger en phase. Alors, comment piloter les muscles? C'est la question qui se pose. Alors, soit on fait de l'apprentissage, on regarde quelqu'un qui marche, et on se dit, bah, pour que ça bouge comme ça, voilà les influx nerveux qu'il a fallu envoyer. Ça, déjà, il y a un petit peu de mathématiques, hein. Repasser d'une analyse d'un mouvement pour en déduire la contraction du muscle. Là, il y a un peu de modèle mathématique derrière. Et après, pour remonter, si je veux tel mouvement du muscle, quelle impulsion électrique je dois envoyer à quel moment, là encore, il y a du modèle mathématique. Donc, c'est vrai que c'est moins... Ça se voit moins et c'est moins... Mais il est quand même présent, ce modèle mathématique. Donc, derrière ça, on va modéliser toute cette chaîne qui va de l'influx nerveux jusqu'au mouvement du squelette. Et on va faire une espèce d'application du modèle inverse pour dire, pour tel mouvement de la jambe, quel signal électrique je dois envoyer dans le muscle. Après, donc il y a cet apprentissage pur. Et puis, il y a aussi des systèmes. Aujourd'hui, on travaille avec une société issue du CEA qui va calculer, pour les gens qui sont paralysés que d'une jambe, par exemple, en calculant l'allure que la personne est capable de donner à la jambe gauche, l'allure qu'il va falloir donner à la jambe droite. Donc là, on va faire du capteur en temps réel, la capture du mouvement de la jambe d'une jambe, pour avoir un mouvement de l'autre jambe qui sera en phase. Donc derrière ce système-là se cache pas mal de modélisation mathématique, bio, et puis c'est de la physique et de la biophysique, parce que le comportement... Une chose que j'ai soigneusement évité, hein, c'est pour ça que j'ai dit que la fatigue musculaire, on fera ça plus tard, c'est de modéliser en temps réel le comportement de la biologie, du physique, la biophysique, c'est extrêmement compliqué. Donc Montpellier s'y attelle, hein, et avec les résultats que vous avez vus qui sont déjà très, très spectaculaires. Oui.
Mais c'est ouais, dans ce domaine, dans le domaine médical
Alors nous, on est dans le domaine médical, dans la rééducation là. Donc cette rééducation du membre supérieur. On y est aussi avec un autre système qui ressemble un peu à ce que vous avez vu, qui est un exosquelette. Donc c'est un bras de robot qui va être accroché au bras de la personne. Alors on va s'en servir d'abord pour faire de la rééducation. Donc c'est le bras qui va guider le bras de la personne. Mais ce qu'on a en tête, et ce que font déjà les Japonais, enfin en tout cas qu'ils disent qu'ils font, c'est que ils récupèrent un signal électrique que la personne veut envoyer à son propre muscle pour commander le bras du robot. Donc vous voulez commander votre bras à vous, et c'est le bras du robot qui va bouger. Et donc ça va vous assister. Si vous avez une perte musculaire, donc par exemple pour les myopathes, ça sera extrêmement précieux parce qu'ils n'auraient plus la force de faire un geste, surtout quand ils portent quelque chose. Et là, c'est le robot qui va prendre en compte la volonté de la personne et en revanche apporter sa masse, sa force musculaire pour réaliser le geste. Donc nous, on travaille là-dessus, sur cette rééducation. Puis on travaille aussi, mais là, on est sur un robot domestique. Donc un robot qui est un petit engin à roulette avec un bras, où la personne handicapée dit « va me chercher à boire ». Le robot se promène tout seul et va lui chercher à boire et lui rapporte. Ça, c'est un système que je n'ai pas présenté aujourd'hui parce qu'il est pas plus robotique que réalité virtuelle, mais qui est actuellement en cours d'évaluation dans un centre de rééducation à Berck. Bah, celui qu'on voyait là, d'ailleurs, là où on avait testé le système de rééducation du bras. Mais robotique et réalité virtuelle sont deux sciences vraiment très très proches. Comme je vous l'ai montré au début de mon exposé, beaucoup des techniques sont très similaires.
Et puis une autre remarque, c'est qu'il y a déjà depuis une vingtaine d'années, vous deviez développer des robots pour aller en atmosphère hostile. Je ne pense pas que ça ait été une réussite très très bonne. Il y avait une boîte de Grenoble qui développait ce système-là, qui était en avance sur les Japonais, et puis je pense que depuis, ça n'a pas très bien réussi.
Aux dernières nouvelles, les Japonais achètent toujours ce genre de robot en France. Alors peut-être pas dans la boîte de grenobloise, mais les Japonais, ils se sont beaucoup focalisés sur les robots qui passent à la télé, et pas beaucoup sur les robots qui vont dans les installations nucléaires. Et donc là, c'est les Français, sans pub, sans communication, parce que c'est pas très sexy de faire des robots pour les centrales nucléaires, mais c'est nous qui fournissons de la technologie aux Japonais dans ce domaine-là. Donc, je dirais que, voilà, c'est pas un succès très autour duquel on fait beaucoup de publicité, parce que dans robot pour le nucléaire, il y a robot qui est un gros mot et nucléaire qui est un autre gros mot. Donc, quand vous êtes très fort en robotique nucléaire, vous essayez de qu'on parle pas de vous. Et donc, mais bon, on a des beaux succès, on a des industriels qui commencent à avoir de la technologie disponible. Et donc, je pense que plus les niveaux de radiation tolérés par les Turcs et les autres baisseront, ce qui va dans le sens de l'histoire, plus ces robots seront utilisés et plus, j'espère, on en parlera.
Puis je vais pas monopoliser le micro, mais j'avais une dernière remarque à vous faire. C'est que tout à l'heure, quand vous parliez des installations justement en travaux dans les chantiers des munitions de dose, je ne vois pas tellement le calcul mathématique, parce que c'est l'homme qui a été faire les mesures et à l'aide de caméras graphiques pour mesurer les doses prises et qui n'ont été exploitées après par le CEA, etc., que pour améliorer, d'accord, le travail. Mais il y a bien eu l'homme qui est allé faire les mesures en premier. Hein. Ce n'est pas des modèles mathématiques, à ma connaissance, je peux vous dire.
Alors, c'est vrai que les modèles mathématiques, c'est comme les bombes atomiques. Il faut les caler sur la réalité. Et si on n'a jamais fait d'expérience réelle, eh bien, votre modèle mathématique, il ne vaudra jamais rien. Donc, vous avez raison, au début, on a fait des vraies mesures avec des vrais capteurs. Mais
les hommes, pas les capteurs.
Alors, on parle peut-être de deux choses différentes. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a mis une source de rayonnement dans une cellule, on a mis un capteur à l'autre bout de la cellule et on a regardé combien de doses le capteur prenait. Et après, on a vérifié que nos équations mathématiques, avec un modèle de la cellule, un modèle de la source, un modèle du capteur, donnaient les mêmes résultats. Ça, c'est ce que j'avais compris de votre question. Après, l'autre question, c'est quels sont les effets de ces radiations sur les personnes. C'était ça qui était derrière votre question ?
Pas du tout. Je disais que ce n'était pas un modèle mathématique, c'était des gens qui avaient été mesurer les doses dans le matériel pour améliorer la chose après, avec des caméras.
Je vous dis que c'est les manips auxquelles j'assiste moi aujourd'hui, on n'envoie pas un gars avec un capteur prendre des doses et puis ressortir après, fais voir combien t'as pris avec ton capteur, tiens vieux, faut qu'on te dise quelque chose, t'as pris trop de doses. On ne fait pas comme ça. Aujourd'hui, en tout cas,
je vous dis que ça s'est fait, c'est pour ça.
Voilà, ça s'est peut-être fait, mais aujourd'hui.
Les capteurs, ça serait des films photographiques que l'on déposait dans les installations pour mesurer la.
Oui, alors c'est vrai que.
Un équivalent de dose, on dira, d'accord.
Absolument. Oui. Donc c'est vrai que les gens, ils ont des doses, ils ont des dosimètres et on mesure les doses qu'ils ont prises. Mais on parle, je pense, de deux choses différentes. Oui.
Moi, j'ai entendu hier une émission de Daniel Mermet, parce que je suis une fan, qui disait qu'en fait, EDF est soumis à de la rentabilité. Donc, en fait, déjà dans au niveau des entretiens des centrales, puisqu'il y a eu des problèmes à Tricastin au mois de juillet, que tous les gens qui travaillent, qui sont, pour ça que j'ai utilisé le mot nomade tout à l'heure, qui travaillent, sont tous en CDD. Donc, déjà, les gens qui travaillent, il y en a à peu près la moitié qui sont intégrés dans une équipe fixe, et puis les autres, ils tournent autour des centrales. Alors, moi, je me pose la question, comment pourrait faire un client, peut-être à vous, comme EDF, qui est soumis à une rentabilité, et puis comment pourrait-il se payer je ne sais pas combien coûte parce qu'on n'a pas posé le problème du coût du robot. Comment pourrait-il, lui, s'équiper d'un système comme ça, et combien il en faudrait, alors qu'il n'est pas en mesure d'embaucher des gens d'une façon définitive. Donc, combien coûterait pour entretenir une centrale nucléaire, je sais pas comment dire, un robot peut-être.
Ouais. Voilà. Alors, déjà, la rentabilité, d'accord, je comprends le sens. Oui, d'accord. Donc la rentabilité, c'est sûr, et je pense que notre EDF perdrait de l'argent. Je pense que personne serait content, donc on peut pas lui en vouloir de faire attention à sa rentabilité. Maintenant. Tout n'est pas robotisable, malheureusement. Parce que pour les, alors j'ai passé un peu vite la vidéo qui se passe dans l'usine de La Hague, de retraitement de La Hague. Amener un robot, alors soit on met un robot sur tous les endroits où on estime qu'il va pouvoir y avoir besoin. À ce moment-là, en effet, c'est plus du tout rentable économiquement. Soit on prévoit des postes d'atterrissage pour un robot, puis le robot, on l'amène à un poste, et puis après on l'amène à un autre. Donc dans ces cas-là, bon, pour parler argent, le système de téléopération que vous avez vu là. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Hein. C'est, si vous voulez aller en acheter un, ne dites pas, j'ai là indiqué que ça coûtait ça. Un ordre de grandeur, je pense que, allez, 1 million d'euros, vous avez tout le système. C'est-à-dire un système, le bras maître, le bras esclave, le contrôleur, l'électronique durcie. Voilà, c'est un ordre de grandeur à la louche. Et donc, pour ça, en effet, combien de Turcs, vous allez me demander, c'est ça? Oui, oui. Enfin, je pense que pour moi, le français et le turc coûtent le même prix. Oui. Ben, bon, enfin, malheureusement, le calcul peut pas se faire vraiment comme ça. Et si, s'il y a des, enfin, je pense que partout où on peut utiliser le robot, on le fait. Mais malheureusement, les robots sont pas toujours très faciles à installer. Et l'intervention humaine est parfois plus rapide, plus efficace. Et, enfin, est encore certainement plus rapide et plus efficace.
Et moins cher.
Donc moins cher. Bah, je vous dis, moi j'en vends à, enfin, bon, pour aller vite, j'en vends à Areva et qui en installe, donc qui en installe là où elle peut en installer. Donc là, on est actuellement en discussion avec eux pour que dans leurs usines du futur, ils prévoient la robotisation beaucoup plus tôt. Parce que moi qui vends des robots, hein, pour simplifier, je regrette comme vous qu'on n'en utilise pas plus et que plein d'installations nucléaires n'aient pas été prévues pour des installations robotisées. Il y a eu. Lors des installations, bon, pour jouer carte sur table avec vous, hein, quand l'accident de Tchernobyl est arrivé, eh bien, nous avons beaucoup ricané en disant mais pourquoi ils n'envoient-ils pas des robots ? Et on s'est retourné vers les exploitants nucléaires, on a dit nous, si ça arrivait, vous enverriez des robots. Et alors voilà, et donc Areva, EDF et CEA ont dit des robots, ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, non, sûrement on ferait ça, mais c'est pas prévu du tout. Et donc, ce jour-là, ces trois grands exploitants du nucléaire ont dit, on va construire un parc d'intervention prêt à intervenir en cas de problème dans une installation nucléaire. Et après, on s'est dit, et ces robots sont extrêmement compliqués parce qu'ils doivent intervenir dans des endroits qui n'ont pas été prévus pour des interventions robotisées. Et ça n'est que maintenant, aujourd'hui, avec Areva, on prépare la prochaine génération d'usines. Avec les installations, avec tant de retraitement que de production d'énergie. Et là, on essaye de leur dire, mais pensez aux robots tout de suite, pour que de moins en moins, on ait besoin d'intervention. Donc, voilà, on a découvert un peu ce genre de choses en marchant et des erreurs ont été faites. Je peux pas dire le contraire.
Oui, moi je voudrais savoir où est-ce qu'on est les discussions, où est-ce qu'en sont les discussions éthiques et les questions de droit relatives justement à tout ce qui est virtuel et puisqu'on va vers une plus grande robotisation aussi. Donc forcément, il y a la question qui a dû se poser.
Je veux bien que vous développiez un peu pour pas que je réponde à côté de la question. Ou alors je peux commencer à répondre, puis vous me direz. Alors, première chose, il y a un chercheur italien qui a un succès fou dans les conférences robotiques parce qu'il a écrit plein de trucs sur ce qu'il appelle, j'ai oublié, la robotique ou un truc comme ça. Voilà, au lieu de robotique, il dit robotique. Et moi, quand je l'ai entendu, je l'ai trouvé assez peu convaincant. Et dans un projet européen que j'avais avec lui, où il a remis, on avait proposé de rendre un rapport sur la robotique, la Commission européenne a dit que, en effet, son discours était peu convaincant, parce que aujourd'hui, la robotique ne menace pas grand-chose d'un point de vue éthique. Tout ce que pourrait menacer le robot, c'est de prendre du boulot aux gens. Voilà. Pour moi, c'est pas de l'éthique, c'est de l'économique, ou c'est du social. Mais bon. Mais bon, et comme on l'a vu, comme dans l'exemple précis qu'on vient de citer, le robot, il est aujourd'hui malheureusement assez ballot. Il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire. Il y a beaucoup plus de choses qu'il ne sait pas faire que de choses qu'il sait faire. Et alors, je peux aussi vous faire l'exposé sur la robotique que j'ai. Quand est arrivé le robot à l'origine, on sortait des temps modernes de Charlie Chaplin. Je ne sais pas si vous voyez le début des scènes. Alors, il y a les deux côtés dans Charlie Chaplin qui sont très bien. À la fois, l'homme qui est utilisé comme un robot, qui vise des boulons toute la journée et qui devient complètement cinglé, qui vise tout ce qui passe sous la main quand il sort de l'usine. Je pense que remplacer ce boulot-là par un robot, c'est plutôt dans le sens d'élever l'homme. Et, et après, il y a aussi dans le même film un robot qui nourrit Charlot. Je ne sais pas si vous vous souvenez, que le robot devient complètement fou et puis lui met plein de nourriture dans la bouche. Eh bien, donc ça, c'est pas bien. Mais en même temps, il existe aujourd'hui des robots qui nourrissent les personnes handicapées. Et ces personnes handicapées sont très contentes que ce soit un robot qui les aide à manger. Donc...
effectué sur le patient qui améliore, d'accord, enfin qui te permet de survivre. Mais à côté de ça, s'il n'y a pas la parole et un échange réel, tactile, pas froid, mais chaud, il y a plein de sens qui manquent.
C'est vrai.
À ces robots. Donc c'est très intéressant dans le domaine de la sécurité, dans la rééducation aussi, mais je pense qu'il y a toujours besoin des accompagnants pour mettre justement une âme à cette rééducation et à ce travail qu'on fait avec ces
bon, handicapés. Là, vous prêchez un convaincu, je suis entièrement de votre avis. Je ne peux pas dire le contraire. Ce qu'il y a, c'est que les personnes handicapées nous disent, il y a des endroits, il y a des moments où je voudrais faire des trucs seul, et il y a des moments où je veux avoir de la compagnie. Et la robotique, ça leur permet de choisir ces moments-là. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, mon plus grand cas de conscience, c'est que les personnes handicapées nous disent, l'endroit où je voudrais être seul, c'est quand je vais aux toilettes. Eh bien, moi, je ne sais pas faire un robot qui les emmène aux toilettes. Voilà. C'est dommage, mais donc, c'est pour vous dire que je... Voilà.
Il faudrait faire plus grand les toilettes. Ça permettrait de mettre un robot.
Oui, alors, bon, non, il y a des solutions qui avancent. Mais voilà, ce que je dis, c'est que le robot propose une solution pour que les personnes aient le choix. Et puis aussi qu'on prenne en compte le fait que des assistantes à domicile en permanence. Et donc, les gens doivent être seuls un moment. Et faisons en sorte que pendant qu'ils soient seuls, ils ne soient pas complètement abandonnés. Et leur donner un minimum d'autonomie dans les moments où, malheureusement, ils n'ont pas quelqu'un dans la journée.
Bah, la question, justement, pour reprendre justement l'exemple des handicapés qu'on peut aider grâce à des robots. Oui, je sais plus ce que... Oui, pour reprendre cet exemple-là, donc des handicapés qui conjuguent à la perfection le problème à la fois d'éthique et de droit, quand c'est une personne physique, une auxiliaire de vie ou une infirmière ou une aide-soignante, peu importe, qui aide un handicapé puis qui se manque quelque part et puis qu'il y a un problème sur le malade, c'est la personne médicale, c'est le médecin, c'est la personne soignante qui serait attaquée. Au niveau du tribunal, par exemple. Un robot, ça reste quand même quelque chose de mécanique, donc il n'est pas non plus exclu d'imaginer qu'il puisse avoir un problème. Dans ce cas-là, c'est qui le responsable, justement, éthique? Et puis, comme vous parliez tout à l'heure aussi de quelque chose qui a été fait au Japon, où on rajoute, par exemple, un bras robot sur un humain, il y a aussi des parties humaines qu'on rajoute à un robot pour pouvoir faire des choses et d'autres. Alors, après, c'est une question de quantité. Qu'est-ce qu'on met et du coup, ça pose le problème de la différence entre l'humain et le robot. Alors, on a l'impression de s'en aller dans une autre dimension et puis d'avoir l'impression d'être dans des dessins animés, justement, futuristes. Mais c'est quand même des questions qui se posent.
Alors, vous m'avez dit trop de choses, j'ai oublié. Alors, la responsabilité, voilà. La responsabilité. Déjà... Le problème, je pense que, il y a à mon avis que le fait qu'un malade attaque son médecin parce qu'il a un problème, c'est pas très, déjà de base, c'est pas terrible. Et je préférerais on va avoir de plus en plus de mal à trouver des médecins, et tous les médecins voudront être dermatologues parce qu'ils seront sûrs qu'ils n'auront plus d'emmerde avec les patients qui se plaignent. Ou dermatologue, c'est peut-être pas le plus sûr. Ou je sais pas, ou capelliculteur, ou bon, enfin bref. Ou radiologue. c'est la radio. Sur l'interprétation,
ah, non,
voilà.
Non, non, ils prennent trop de risques.
Non, non, mais voilà, donc on est bien d'accord. Donc, bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si le robot qui doit s'occuper d'une personne handicapée l'a fait tomber par terre. Quand j'en parle avec les médecins de rééducation avec qui on fait ces projets-là, ils me disent, vous savez, même une infirmière, elle fait tomber des handicapés par terre. Voilà. Et donc pour eux qui vivent au quotidien avec des personnes handicapées, ça n'est pas un problème. Deuxième chose, après ça en sera un, je suis d'accord, ça, on ne va pas en rester là. Enfin, nous, ça nous permet déjà d'avancer, parce que si on reste coaché avec le principe de précaution, on fera jamais rien, parce qu'on se dira toujours, oui, mais ce que je fais peut-être un jour que... Voilà, donc en tant que scientifique, j'ai un peu de réticence avec le principe de précaution, et... Voilà. Mais néanmoins, ça n'empêche pas de réfléchir sur les conséquences de tout ce qu'on fait. Alors voilà, le jour où une personne handicapée sera blessée par un robot qui était censé l'aider, eh bien, il y aura un procès au fabricant du robot. On ne va pas faire un procès robot, on ne va pas envoyer le robot en prison. Et donc, le fabricant du robot, soit il a pris des assurances, il aura pris des assurances, il se retournera contre on fera une analyse, comme aujourd'hui, quand il y a un accident d'avion, on fait une analyse... De la région d'origine, et puis on attaque celui qui est en cause. Voilà, c'est comme une voiture ou comme un avion. Le robot, c'est une mécanique qui va atteindre de la fiabilité avec le temps, et puis statistiquement, il y aura toujours des accidents. Et puis voilà, mais est-ce qu'on arrête de prendre la voiture? Est-ce qu'on arrête de prendre l'avion? Est-ce que ça serait bien, vous allez me dire, mais il y a du risque dans tout, et pas plus dans la robotique que dans d'autres technologies qui nous entourent. Non, je ne vous convainc pas.
Il y a dernièrement, là, avec la question des militaires, des soldats en Afghanistan, et on a entendu quelqu'un, bon, j'ai entendu le ministre qui disait qu'ils allaient fournir des robots. C'est quoi les applications guerrières, les militaires, des robots comme ça, de quoi il veut parler?
Alors, on reviendra à votre question, si j'ai pas été clair. Mais pour répondre le gros des robots aujourd'hui, ce sont des engins autonomes, en fait, des comme des petites voitures automatiques qui sont téléguidées. Et aujourd'hui, s'il y a un peu d'éthique dans la robotique, c'est ça, il est interdit à un robot de décider de tirer. Donc les robots peuvent être équipés d'armes à feu, mais c'est toujours un bidasse quelque part qui décide de tirer. C'est jamais le robot qui analyse une situation de façon automatique, qui vise et qui tire. Ça, c'est interdit. Donc, c'est peut-être le seul endroit où on peut parler d'éthique du robot. Donc, Donc aujourd'hui, les robots militaires, c'est un gros marché, hein. Ce sont des engins d'inspection qui vont aller voir ce qui se passe et éventuellement d'intervention, qui peuvent être armés, qui peuvent tirer, mais jamais en décidant par eux-mêmes de tirer. Et puis, il y a aussi des drones, donc des avions sans pilote, qui ont un gros succès chez les militaires, parce que ça permet de faire toutes les inspections qu'on ferait avec un avion sans risquer la vie d'un pilote.
Finalement, on peut imaginer une guerre de robots, quoi.
Espérons, ouais. Si on doit vraiment se faire la guerre, autant que ce soit des robots qui se la fassent. Et on la regardera à la télé, ça sera sympa. Après, on va me dire, oui, mais vous mettez des militaires au chômage.
Je voudrais vous poser une question. Je voudrais vous poser une question, là je suis dans le virtuel. Hein. Est-ce qu'il est possible de faire des robots qui empêchent les responsables de prendre des décisions imbéciles?
Eh bien...
Pour imager mon propos, est-ce que s'il y avait un robot, vous pouviez inventer, qui empêcherait au président de la République de prendre des décisions telles que sur la santé aujourd'hui, qu'il est en train de faire la France un désert, quoi?
C'est une commande. Ah ouais. Alors,
combien ça coûterait au canton de Brinon?
Alors, vous croyez pas si bien dire, il y a aujourd'hui ce ne sont pas des robots, hein, ce sont des robots logiciels. Donc, ce sont des logiciels d'aide à la décision. Et donc, ce sont des logiciels qui sont chargés d'analyser des données extrêmement, des données qui sont numériques, hein, donc des textes, des chiffres, des prévisions, et à partir de tout ça, tirer des grandes lignes, extrapoler des conséquences sur certaines décisions. Donc en effet, il y a déjà certaines, alors ça prend pas toujours cette allure graphique, hein, c'est pas aussi simple, mais en effet, il y a déjà des tas de les prévisions que font les économistes, tout ça, ce sont des C'est un peu comme ça. Ce sont des modèles mathématiques qui disent si on fait ci, voilà ce qui va se passer. Alors moi, je ne sais pas si le... Bon, dans le cas précis de la décision que vous faites, à laquelle vous faites allusion, je ne sais pas ce qui a été fait, mais en général, les décideurs ont des outils pour évaluer les conséquences de leurs décisions. Voilà. S'ils veulent les utiliser, d'une part, s'ils veulent... Après, ces logiciels ne donnent de résultats qu'en fonction de ce qu'on a mis dedans. C'est complètement différent, ce que je vais vous citer, mais ça illustre par la bande le propos que je veux vous tenir. Quand les gens qui ont envoyé le robot sur Mars, à la NASA, là, ont mis au point le logiciel, ils avaient deux équipes complètement séparées. Une équipe qui développait le logiciel de contrôle du robot, et puis une équipe qui faisait les tests du robot. Et ces deux équipes n'avaient pas le droit de se parler, ils n'avaient même pas le droit d'aller dans la même cantine. Pourquoi ? Parce que quand vous développez un logiciel, vous avez en tête déjà une modélisation de ce que va se passer. Donc votre robot, quand vous mettez son logiciel dans la tête, vous dites « Ah oui, alors il faut prévoir le cas où il va monter un caillou avec sa roue gauche, puis après avec sa roue droite, puis qu'il y aura un trou. » Et donc vous avez déjà une idée de ce que le robot va rencontrer. Et donc, quand vous faites votre logiciel, c'est pour résoudre tous les cas auxquels vous avez pensé. Mais en fait, le robot, il va tomber devant un cas auquel vous n'aurez pas pensé. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que quand les gens modélisent un comportement économique, forcément, ils ont déjà un a priori sur les choses, sur comment elles s'agencent. Ils ont un a priori sur le fait que quand vous renflouez la dette publique, il se passe ça. Donc voilà, ils ont un modèle dans la tête qui est forcément une idée de leur point de vue. Et après, on sait que le monde économique est difficilement... difficile à mettre en équation, ne serait-ce que parce que c'est dur de faire des expériences. Tout à l'heure, je parlais des expériences qu'on fait, on met une barrette, un capteur à un endroit, on le bombarde, on regarde ce qui se passe et après on le reproduit. Dans le monde économique, dans le monde social, c'est difficile de faire des expériences. Et donc, forcément, ces logiciels se basent sur du passé et forcément, ça ne peut pas marcher très très bien.
C'est sur le vécu.
C'est sur le vécu, voilà. Et alors, Il y a des tas d'expériences qui ont été faites. On a essayé le collectivisme, on a essayé l'ultralibéralisme, on a essayé plein de trucs. On voit ce que ça donne et c'est ça qu'on met dans le logiciel. Voilà. Toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs. Il n'y avait pas Internet avant, il n'y avait pas l'euro. Voilà. Donc c'est vraiment super difficile de faire des modèles auxquels... Voilà. Et alors peut-être que certains hommes politiques vont se fier à leur intuition, indépendamment des... Voilà. Il faut un peu de ça aussi. Oui, oui. Ouais, c'est pour ça que nous, notre point de vue dans la robotique, que je reviendrai l'année prochaine à vous développer, c'est ce qu'on voit avec le chirurgien, c'est l'homme et le robot doivent rester la main dans la main. Voilà. Et partager intelligemment les tâches pour les réaliser au mieux. J'aime beaucoup le film Robocop pour ça. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Hein. C'est un policier qui est presque mort. Et justement, on l'a à moitié robotisé. Donc, il lui reste le cerveau de l'être humain. Mais tout le reste, il a, il court plus vite. Voilà, c'est un peu Steve Austin aussi, quoi. Oui, alors c'est. Oui.
Est-ce qu'on n'a pas déjà vu des opérations chirurgicales réalisées à distance ?
Oui.
Donc là, ça intervient bien le même système de résistance, par exemple d'un robot, où on a un intervenant qui applique une action sur un corps. Et pourtant, l'action est complètement extérieure à l'intervenant.
Voilà. Donc, vous avez trouvé ça extraordinaire, et vous avez raison. Moi, ça fait 20 ans que je le fais dans le nucléaire.
D'accord.
Et vous trouvez ça naze.
Enfin, je
vous taquine, je vous taquine.
Je n'ai pas réagi sur la bombe.
Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, d'un point de vue robotique, cette opération entre Strasbourg et New York n'avait aucun intérêt. C'était un coup de pub. Et c'était un coup de pub pour l'équipe de Maresco, qui est très bien. Et c'était un coup de pub pour France Télécom, qui avait fait la ligne. Parce que le vrai problème là-dedans, c'est d'être sûr d'avoir la ligne téléphonique qui ne se coupe pas pendant que vous êtes en train d'opérer à cœur ouvert un mec à 5000 km de là. Le vrai problème, il est là. Ce n'est pas du tout un exploit robotique. Et en fait, c'était un coup de pub pour mettre en avant la robotique, la chirurgie robotisée, qui se fait généralement Moi, je suis assis là et mon patient, il est sur la table là. Et la chirurgie robotisée me permet juste d'être assis confortablement et d'avoir certains gestes que je ne pourrais pas faire si j'avais les mains sur mon patient.
En fait, je connaissais déjà la réponse à la question. Si je l'ai posée, c'est pour réorienter le discours.
Merci.
Merci.
Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que cette intervention qui était quand même très... une très bonne idée parce que c'était une bonne pub pour la robotique, a eu le malheur de se dérouler le 10 septembre 2001, c'est-à-dire la veille de ce que vous savez, et que donc on n'en a pas du tout parlé parce que le lendemain déjà on avait plein de trucs à se dire par ailleurs. Bah, malheureusement non. Oui.
Bon, alors je parle. Voilà.
Je vous écoute. Bon.
Ah, vous avez dit beaucoup de gros mots depuis le début de la soirée.
Super.
Mais on vous pardonne.
J'en ai encore plein.
Parce que vous êtes très courageux d'aborder ce thème-là dans ce domaine. Et comme on est en université, on est là pour apprendre. Moi, je connaissais la robotique et j'aimerais bien que vous reveniez pour l'exposé sur la robotique parce qu'en fait, j'ai vu des jeunes qui n'avaient pas de boulot, qui étaient loin de l'emploi et qui, avec la robotique, ont pu travailler dans des domaines comme la métallurgie en étant valorisés. Et parce qu'ils n'étaient plus les gars qui avaient le sale boulot, qui étaient sales, qui avaient un rôle, un poste dévalorisant. Ils étaient valorisés grâce à la robotique. Donc ça, je trouvais ça plutôt bien. Moi, j'y comprends rien parce que je ne suis pas une scientifique. Mais bon, je pense que j'ai compris à peu près. Il y a un domaine qui m'intéressait, c'est le domaine des effets spéciaux. Mais je ne sais pas si vous êtes concerné par ça. Et il y a une autre chose qui... c'est une autre question. Il y a, dans les gros mots que vous avez dit, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est le maître et l'esclave. Et vous savez, la théorie de Hegel qui dit que l'esclave, à un moment donné, il se retourne contre le maître.
Eh bien, je suis très heureux que vous me parliez de tout ça. J'aime beaucoup tout ce que vous m'avez dit. Voilà. Qu'en effet, je pense que la robotique... Alors, non seulement la robotique, dans le monde industriel, va en effet élever... La valorisation de la personne, c'est toujours plus valorisant de contrôler un robot que de faire le boulot que fait le robot. Et dans le maître et l'esclave, je suis très heureux que vous me disiez ça, parce que moi, je milite contre le... Alors, c'est un terme consacré... c'est notre jargon. Mais je trouve que, justement, avec le retour d'effort, la distance entre le maître et l'esclave disparaît. Puisque si l'esclave... fait le travail, a du mal à faire le travail, le maître va le ressentir aussi. Alors qu'avec un vrai esclave, c'est sympa. Vous lui dites de se tuer au boulot, il se tue au boulot, point à la ligne. Alors que là, le lien qu'il y a entre moi et mon robot qui fait le travail, eh bien, si le robot doit forcer, eh bien, moi, je vais avoir la même difficulté que lui. Donc, en effet, bon, mais voilà, c'est un problème de jargon.
C'était fait parce qu'il cassait beaucoup de pièces.
Voilà, absolument. Absolument, oui. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que cet effort, ça m'oblige à faire attention, parce qu'on cassait aussi des robots. Hein. On cassait des outils, on cassait des robots. Donc, ce retour d'effort, il diminue le côté un peu brutal de la terminologie maître-esclave, je trouve. Et en ce sens, il se retourne contre le maître parce qu'il renvoie l'effort qu'il doit faire. Donc, on est complètement dans Hegel avec notre système.
Dans les effets spéciaux, dans le cinéma, vous intervenez ou pas?
Alors aujourd'hui, non. Et pour vous dire même plus, vu que nous, on fait de la réalité virtuelle, on ne fera jamais d'effets spéciaux parce que nous, on cherche qu'à faire de l'effet réel. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est que... Moi, ce que je vais essayer de faire dans un film d'animation, c'est que quand le personnage laisse tomber un objet par terre, ce soit des équations mathématiques qui fassent tomber l'objet à la bonne vitesse, avec la bonne trajectoire. Et donc, ça sera un effet qui ne sera pas spécial du tout. Ça sera un effet qui sera naturel. Donc moi, je vais faire que des effets naturels. Celui qui fera des effets spéciaux, c'est celui qui lâchera la balle et que la balle, hop, elle remontera, elle tournera autour de ma main et elle viendra me donner un coup dans l'œil. Ça, c'est de l'effet spécial. Et ça, moi, j'ai pas d'offre là-dessus. Ça, c'est plus l'artiste qui va avoir cet effet spécial-là. Alors après, il y a des techniques, des technologies qu'utilisent les gens des effets spéciaux qui sont semblables à certaines des nôtres. Par exemple, quand vous voulez animer un petit personnage fictif qui est en 3D, eh ben, on va demander à un personnage réel avec des systèmes de capture de mouvement comme celui que je vous ai montré. Donc, vous voyez, quand vous bougez devant un écran, il y a des caméras qui vous filment. Et ces mouvements-là seront renvoyés sur le petit personnage, le petit gnome ou le petit qui est complètement fantaisiste, lui. Donc il y a certaines de des techniques qu'on réutilise mutuellement. Mais voilà, moi je ferai toujours de l'effet normal, pas de l'effet spécial, parce que je cherche à mimer la réalité et pas le fantastique. C'est pour ça que c'est triste mon travail.
Ça n'a pas l'air.
Non.
Vous avez parlé de commande haptique, vous n'avez pas du tout parlé de commande par la parole. C'est parce que c'est trop difficile ?
C'est parce que j'en fais pas, et parce qu'on ne peut pas tout faire, et qu'une des grandes vertus d'un laboratoire, c'est de se focaliser sur un domaine, et pas d'aller dans tous les sens. Cela dit, j'en fais un petit peu quand même. Alors, sur la commande par la parole... Donc aujourd'hui, il y a un niveau qui est dans l'état de l'art, qui est je vous donne un mot-clé, je vous dis porte et il ouvre la porte, je dis lumière, il allume la lumière. Et ça marche très bien si vous avez un système qui a appris votre voix sur un nombre donné de mots. Voilà, donc aujourd'hui, dans l'état de l'art, ça marche. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des systèmes qui sont multilocuteurs, donc qui vont reconnaître plusieurs voix. Et puis surtout, des systèmes qui vont comprendre le langage naturel. C'est-à-dire, s'il te plaît, ordinateur, est-ce que tu peux m'allumer la lumière ? Là-dedans, il y a plein de trucs qui servent à rien, et donc il faut que le système comprenne toute la phrase. Alors déjà, il y a un premier travail qui est fait par plein de chercheurs qui, à partir de cette phrase que j'ai dite, essayer de l'écrire. Et puis après, une fois qu'on a écrit tous les mots, essayer de comprendre ce qu'il y avait dans cette phrase. Donc sur cette première phase, je passe d'un flux oral à un flux écrit. Là, il y a des très bons labos au CNRS qui font ça, donc on travaille avec eux. Et après, une fois qu'on a le flux écrit, on va essayer d'extraire ce qu'il faut comprendre de toute cette suite de mots. Et là, nous, on travaille un petit peu là-dessus. Donc, extraire une sémantique d'une suite de mots pour essayer de comprendre une chose. Donc, voilà, donc on en fait un petit peu, mais plus sur la partie extraction de sens d'un texte écrit que sur la partie vraiment proprement... transcription d'un écrit d'un flux oral en un flux écrit. Je réponds à votre question ?
Oui, mais vous n'avez pas d'application.
Bon, les applications, bien sûr, c'est l'aide aux personnes handicapées. Hein. Moi, mon robot qui va me chercher un verre dans la cuisine, si je pouvais lui dire « va me chercher un verre dans la cuisine », je préférerais lui parler comme ça. Mais voilà, bon, donc c'est ces personnes-là. Donc nous, on travaille aussi, quand on est dans un centre de rééducation, avec les ergothérapeutes qui ont trouvé les bons modes d'interaction entre la personne handicapée et toutes les aides techniques dont elle dispose. Et donc, ça peut être, je crois que ça s'appelle le Dragon, un système, un des plus connus, c'est le Dragon, je crois, qui une fois, après avoir fait un apprentissage de votre voix, est assez efficace. On en revient un peu de la commande vocale. Hein. Pendant un moment, on avait beaucoup espéré. Dans les voitures, il y avait ça tout le temps. Et puis, vous savez comme c'est agaçant quand ça marche pas, en fait. Le problème, c'est que c'est pas un système, malgré tout, très, très fiable, surtout dès qu'on n'est pas dans un environnement maîtrisé. Combien de fois vous voulez effacer un message sur votre messagerie téléphonique, là, sur le portable, et vous dites « effacer ». Et puis, il faudrait hurler « effacer », et on ne sait pas pourquoi, brutalement, il n'arrive plus à comprendre. Alors, pourtant, c'est pas très dur. Voilà. Donc, je crois que ce n'est pas vraiment... Assez curieusement, c'est pas un truc... Voilà, soit on n'a pas obtenu un niveau de fiabilité suffisant, soit c'est quelque chose que les gens ont refusé. Vous êtes en train de parler avec votre épouse en conduisant, et vous dites, tiens, il faudrait qu'on aille faire un tour chez ta mère. Hop, tour, la voiture entend tour, elle met le clignotant, alors que vous ne l'ayez pas... voilà, donc il y a aussi... Qu'est-ce que le système doit prendre dans le flux oral? Qu'est-ce qui s'adresse à lui? Et là encore, on a besoin de sémantique. Il faudrait que le robot comprenne... Voilà, qu'on est dans une phrase qui ne s'adresse pas à lui, et donc il faut lâcher, il ne faut pas faire attention. Et si on veut que ça soit vraiment très fiable et très facile d'utilisation, eh bien, il y a encore pas mal de recherches là-dessus. Et tant que ça ne sera pas très fiable et très facile d'utilisation, on ne s'en servira pas. C'est un peu comme l'ordinateur le jour où on a inventé la souris, quoi. Je pense que si l'ordinateur a explosé, c'est parce qu'il y a eu la souris. tant qu'il y avait qu'un clavier, c'est bête, hein. L'objet était le même, mais simplement l'interface machine a changé. Dans un cas, c'est passé, dans l'autre, ça l'est pas. Oui, absolument. Bon, heureusement que ça marche un petit peu, oui.